I grew up.
Well, then grow back down again.
Screw them if they can't take a joke.
You can dance. You can die.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et j'accueille à distance Laura.
Bonjour.
Amandine.
Bonjour.
Et Manon.
Bonjour.
Aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons parler du vieillissement au cinéma. Pensez aux films que vous aimez, aux actrices et acteurs que vous admirez. N'avez-vous pas remarqué que dans la plupart des cas, les hommes sont majoritairement plus âgés que les femmes ? Ce constat, s'il peut être fait, c'est parce qu'il n'est pas le résultat d'un cas isolé. En mai 2018, alors que la 71e édition du Festival de Cannes battait son plein, que 82 femmes montaient symboliquement les marches du tapis rouge, une pétition rassemblait des milliers de signatures. La AFA, l'Association des actrices et acteurs de France, est créée par l'actrice Marina Thomé. Un manifeste a été mis en ligne suggérant une théorie, voire un problème de société, celui qu'ils ont appelé tunnel des 50 ans. Une commission de l'Association des actrices et acteurs de France a fait le calcul. Les femmes de plus de 50 ans représentent un quart de la population française. Pourtant, dans les films sortis en 2016, on ne leur a attribué que 6% des rôles. Le sujet reste tabou, comme le relève France Inter. Mais pourquoi ce sujet est-il tabou ? Pourquoi les femmes de plus de 50 ans se font-elles rares, au point parfois de complètement disparaître de nos écrans ? Et les films qui traitent du vieillissement, comment le traite-t-il ? Aujourd'hui, si on a décidé de vous parler de ce sujet, c'est parce que nous-mêmes, on remarque, en parlant depuis 2 ans de sujets divers et variés, qu'on parle énormément de la jeunesse. On a fait un épisode sur les adolescentes, on a énormément parlé de teen movie, on a parlé des pestes dans le cinéma, et la plupart étaient très jeunes. On s'est dit que ça méritait un épisode où, justement, on allait un petit peu à l'inverse, à savoir parler de ce problème qui, effectivement, peut-être constaté en quelques clics sur Google. Est-ce qu'il y en a une qui voudrait commencer peut-être par des statistiques ou nous révéler quelque chose qu'elle a appris durant ses recherches?
Effectivement, Pauline, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que même l'inverse est vrai. On voit pas beaucoup de femmes seniors à l'écran, mais par contre, on voit beaucoup d'hommes seniors à l'écran et même il y a cette idée derrière que en vieillissant, en fait, ils deviennent plus beaux, plus séduisants, plus charismatiques et qui représentent un espèce de fantasme. Sur les écrans, je pense à George Clooney, je pense à Brad Pitt, il y a des noms, il y en a à foison. Les femmes, du coup, en faisant quelques recherches, on s'est rendu compte que, alors c'est statistiques de 2015-2016, mais je pense que ça doit se vérifier aussi pour ces dernières années, les femmes donc de plus de 50 ans ne représentent que 8% des personnages sur les écrans français en 2015 et 6% en 2016, donc ce qui est absolument ridicule, et je pense que, comme tu le disais, même en y réfléchissant et en faisant quelques recherches, on se rend compte que c'est difficile en fait de trouver des personnages de vieilles femmes, surtout qu'en plus ce sont des rôles très, très stéréotypés. Donc voilà, à savoir en plus que les femmes à l'écran, donc on n'a pas beaucoup de femmes de plus de 50 ans. En revanche, on a beaucoup d'hommes de plus de 50 ans qui sont souvent en couple avec des femmes beaucoup plus jeunes qu'elles, et je parle surtout en tant que personnage. Alors il se trouve que la différence d'âge en fait est quand même assez prononcée dans les couples au cinéma. Il y avait une statistique qui était assez intéressante, qui était je crois d'une étude du Monde, qui avait étudié pas mal de films français et surtout des comédies de ces dernières années et qui montraient que la constante en fait c'était minimum une dizaine d'années entre l'interprète homme qui était plus vieux que l'interprète femme qui était généralement plus jeune. Et ça se vérifie, par exemple il y avait je vais donner un petit exemple, mais c'était Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, il y avait un écart de 27 ans entre Christian Clavier qui interprétait Astérix et Noémie Lenoir qui était la courtisane de Cléopâtre, qui me paraît quand même assez énorme, sachant qu'en plus, en moyenne, dans les foyers en France, c'est un écart de 2 ans entre la femme et l'homme. Il n'est absolument pas représentatif, en fait.
Pour appuyer un peu ton propos, Amandine, du coup, il y a l'ADAMI, qui est une société civile pour l'administration des droits des artistes interprètes, qui avait publié un focus en 2017 sur la représentation des femmes dans les productions audiovisuelles françaises. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'entre 25 et 40 ans, il y a 50% des femmes qui sont représentées contre 36% des hommes. Par contre, entre 50 et 60 ans, il y a 12% de femmes et 19% d'hommes. Donc on voit en fait la tendance s'inverse par rapport à quand elles sont jeunes. D'ailleurs, en plus, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que la carrière des actrices se situe dans une dizaine d'années par rapport aux acteurs qui ont plus de 20 ans de carrière, par exemple. Et même, il y a eu un article sur Le Monde qui disait que, du coup, la carrière des femmes se basait entre 24 ans et 32 ans, comparé aux hommes qui, du coup, pouvaient aller jusqu'à leurs 60 ans et plus. Donc, du coup, on voit bien que les actrices ont très peu de temps pour marquer le cinéma, surtout en étant jeune. Alors, par contre, les hommes majoritairement peuvent avoir des carrières beaucoup plus longues et aussi peuvent avoir plusieurs rôles différents, du jeune premier quand ils sont, on va dire, jeunes, jusqu'à un rôle plus imposant quand ils sont un peu plus vieux et dans leur cinquantaine, dans leur soixantaine, dans leur soixante-dizaine.
Pour répondre un peu à ce que tu as dit, Amandine, et ce que tu viens de dire, Laura, effectivement, cet écart d'âge, parfois, là, dans la fiction, tu parlais de Mission Cléopâtre, il n'y a rien qui justifie cet écart d'âge. Et il y a la critique Taina Allen, donc on vous mettra aussi un passage puisqu'on a pu l'enregistrer, qui avait écrit un article récemment sur un film qui va sortir qui s'appelle Eiffel, qui va retracer la création de la tour Eiffel par Gustave Eiffel. Et en fait, ce personnage est joué par Romain Duris, qui a 46 ans, et Emma Mackey, qui en a 24. On peut se dire que c'est une histoire vraie, qu'ils avaient ce vrai écart d'âge dans la vraie vie. Eh bien, pas du tout, puisque en réalité, ils avaient que 10 ans d'écart. Pour moi, ça a été assez révélateur, en fait, du souci. On voit bien que même quand on parle d'un fait réel, on sait très bien que le cinéma est très... il adore faire des adaptations de récits de personnages connus. Et on se doute bien qu'à une époque, les hommes sortaient avec des très jeunes femmes et pour plein de raisons de sociétés diverses et variées. Et là, en fait, on se rend compte que même quand on a une adaptation à l'écran, en 2020, voire en 2021, puisque le film est actuellement en production, eh bien même là, on recrée un schéma qui n'a pas du tout lieu d'être.
Je sais pas si vous avez remarqué dans la culture cinématographique, la culture américaine et la française aussi beaucoup, il y a ce besoin d'asseoir la domination des hommes en romançant leurs relations avec des jeunes femmes qui sont à peine sorties de l'adolescence. Il y avait une liste sur Sens Critique qui reprenait très bien ce que je dis. C'est une liste qui s'intitule « Tous ces films où les vieux beaux finissent par se faire la jeunette et où la question de la différence d'âge ne se pose presque jamais. » Et le film Eiffel, au fait, qui est sorti cette année, en 2020, je crois que c'est... Ou ça devait sortir, je sais plus ce qui s'est passé avec le confinement. Cette production, elle a coûté 26 millions d'euros et elle s'intéresse à l'histoire entre Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès. Dans la vraie vie, le couple avait en réalité 12 ans d'écart. Là, on se retrouve avec les acteurs Emma Mackey et Romain Duris qui ont 24 ans pour Emma et 46 ans pour Romain. Donc, voilà, déjà, on continue à banaliser ce genre de relation et ça nous étonne pas du tout parce que même dans la vie de tous les jours on se retrouve avec un Vincent Cassel qui épouse une jeune femme qu'il a connue, il le dit lui-même, à 17 ans. Donc c'est de l'effet beau-philie parce que c'est une façon pour ces hommes aussi, il faut pas l'oublier, d'asseoir leur domination en étant le prof d'une jeune fille à la fleur de l'âge qui voit le cliché de la jeune fille qui ne connaît pas encore tout de la vie. On le voit de toutes les façons qu'il a aucun mal, un Cassel, à jouer un film où il incarne un pédophile parce que le film Gauguin Voyage de Tahiti, ça, qui s'intéresse à Gauguin et sa romance avec Théura, là on peut voir que ils l'ont caché pendant tout le film, parce que bon, c'est une romance, mais dans la vraie vie, Paul Gauguin, il avait 43 ans et Théura, elle avait 13 ans. Donc voilà, c'est une façon de prouver que ce soit dans la vie de tous les jours ou au cinéma, au fait, ils reproduisent, c'est complètement le patriarcat qui utilise le corps de la femme, la jeune femme, comme outil pour asseoir sa domination.
Ce choix n'est pas du tout cohérent avec, avec le biopic en question, et ça prouve juste qu'ils ont voulu aussi... C'est peut-être un choix, on va dire, qui n'est pas anodin, et qui montre aussi surtout que c'est les femmes jeunes qui importent au cinéma, et on voit que plus elles vieillissent et moins elles ont une importance... on va dire qu'elles ont des rôles un peu plus moindres. Elles ont surtout les rôles de grand-mère, de second rôle principalement, même s'il y en a aussi qui arrivent à avoir une carrière assez stable. On pense forcément à Catherine Deneuve, à Isabelle Huppert, qui, ça c'est en France, mais aussi Meryl Streep, par exemple, aux États-Unis, qui quand même tournent beaucoup et surtout tournent avec des rôles assez conséquents dans leur carrière.
Ça reste des grands noms, en fait, qui ont déjà une réputation tellement établie qu'on a besoin parfois de personnages plus âgés pour interpréter des figures historiques. Je pense à beaucoup de femmes qui ont joué dans des biopics, ou des femmes qui vont jouer des grands-mères ou des mères qui ont une place particulière dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'on a peu de plus petits rôles joués par des femmes plus âgées, ou alors on a peu d'héroïnes jouées par des femmes plus âgées, c'est toujours des figures particulières.
Et surtout, ça tourne entre elles. Souvent, combien de fois Meryl Streep, elle a joué dans un biopic. J'ai surtout l'impression qu'en plus, il y a une espèce de petit cercle d'actrices plus âgées, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Enfin, là, on prend les deux plus gros et les pays dont on parle le plus souvent. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, c'est en plus des femmes qui tournent énormément, et j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui perce à un âge déjà plus avancé, on va dire. Elles sont là depuis des années, qu'elles ont tourné de manière très très récurrente. Ce qui est marrant, ce qu'on voit aussi dans les travaux de l'Association des actrices et des acteurs de France, c'est que parfois il y a une espèce de... Il y a une ellipse entre les 50 ans et les 65 ans, donc on n'en voit pas beaucoup. Par contre, des 65 ans, on va avoir plus d'acteurs et d'actrices, enfin, en l'occurrence d'actrices, mais qui vont jouer que des grands-mères, en fait. Des mères, des grands-mères, des rôles qui leur permettent pas non plus d'aller au-delà d'un rôle genré qui est attribué au sein de la société. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On n'a pas, en fait, au-delà du fait qu'il y en a peu, ce qu'elles jouent, c'est souvent la même chose. Donc, en plus, on leur propose pas une diversité... au niveau des rôles.
Alors justement, Laura, tu es allée interviewer Jeanne Le Bozec, qui est actuellement en train de rédiger un mémoire sur la question. On l'écoute tout de suite.
Je m'appelle Jeanne Le Bozec, j'ai 22 ans et je suis en master en art et culture visuelle à l'Université de Paris Diderot. J'ai fait mon premier mémoire de M1 sur justement l'âge chez les actrices hollywoodiennes et la problématique que ça pose. Et maintenant, pour mon mémoire de M2, je fais sur l'âge et la romance au cinéma, dans le cinéma américain. C'est un culte de la jeunesse qui, comme j'ai dit, est principalement mis en place par les hommes, parce que c'est un système patriarcal, surtout à Hollywood, parce que c'est eux qui produisent, c'est eux qui écrivent, c'est eux qui réalisent en grande majorité. Et au cinéma, la femme est de manière générale présente pour être objectivée par les hommes, soit dans l'histoire, dans le film ou dans le public. Et donc, passé un certain âge, comme les femmes ne correspondent plus aux critères de beauté, sont complètement invisibilisées. Parce que les hommes ne veulent pas voir des vieilles femmes à l'écran, parce que ça intéresse personne, soi-disant. Et ça crée forcément un déséquilibre, parce que en se voyant disparaître des histoires, des films, les femmes qui sont dans le public se sentent totalement dévalorisées. Parce que j'ai beaucoup de, enfin, des femmes dans mon entourage, que ce soit des femmes très proches ou autres, qui en fait se disent, mais voilà, j'ai 50 ans et voilà, je suis pas belle, quoi. Je me sens moche, je me sens vieille. Et je dis, mais c'est justement parce que elles sont pas assez représentées. Et pour les hommes, c'est différent, parce que pour les hommes, en fait, on glorifie leur vieillissement, c'est-à-dire que plus on dit que plus ils vieillissent, plus ils ont du charme. Et pour les femmes, bah, vieillissement, c'est synonyme de déclin, quoi. Entre guillemets, enfin, je dis, je ne trouve pas personnellement, mais pour cette société, pour ce système-là, c'est le cas. Et maintenant, je trouve que les choses ont tendance à changer, enfin, commencent à changer, et on essaye de mettre cette partie de la population davantage en avant. Donc, on part de loin, mais on avance. C'est la barre des 40-50 ans qui est extrêmement compliquée, surtout 40 ans, parce que c'est l'âge où, en fait, elles ne peuvent plus être elles peuvent plus jouer les jeunes amoureuses. Et sans transition, elles se retrouvent à jouer des mères ou des méchantes. Je pense que l'explication la plus sincère que je puisse avoir, c'est que il n'y a pas de rôles qui sont écrits pour, il n'y a pas assez de rôles intéressants pour les actrices qui dépassent cette tranche d'âge, parce que justement les rôles qu'on leur offre avant sont plus, entre guillemets, plus nourris. Et passé 40 ans, comme elles sont considérées moins intéressantes, entre guillemets, elles passent en second plan, c'est-à-dire qu'elles vont jouer des rôles secondaires, des rôles moins importants dans l'histoire, elles ne seront plus des personnages principaux. Je grossis le trait, hein, je veux dire, dans pas mal de films, elles ont le rôle principal, mais c'est surtout quand ce sont des actrices très connues. Beaucoup d'actrices qui sont catégorisées, enfin qui passaient un certain âge, elles jouent soit les mères, soit les sorcières, et pas d'entre deux. C'est-à-dire que sans transition, elles se retrouvent à jouer les ingénues, à jouer une sorcière ou jouer une mère qui joue justement la mère de la jeune amoureuse. Mais je veux dire, il y a qu'à voir, même hors cinéma, rien que dans les films Disney. Dans les films Disney, les mères, enfin les personnages féminins qui sont plus mûrs, plus âgés, sont soit des sorcières ou des marâtres, ou alors elles sont voire totalement absentes. Et de l'autre côté, c'est la marraine, la bonne fée et autres pimprenelles qui sont elles plus en chair, mais ce sont deux extrêmes. Et c'est vrai qu'elles ont du mal à trouver au cinéma le juste milieu, en fait. Parce que, par exemple, ça me fait penser à... En fait, les femmes qui vieillissent font peur. Parce que la seule manière de les représenter sont les représentations en monstres, en sorcières, en folles. On pense, par exemple, à Qu'est-il arrivé à Baby Jane, avec Joan Crawford et Bette Davis, où elles sont complètement grimées, elles font peur. Sunset Boulevard, pareil. Et ça me fait penser à un film qui va sortir dans... Sacrée sorcière. Il va sortir dans pas longtemps. Et Anna Thaouet joue le rôle principal. Enfin, joue la sorcière, mais elle a 37 ans, Anna Thaouet. Donc, on se dit que oui, la figure de la sorcière... Enfin, vous aviez fait un épisode là-dessus, mais la figure de la sorcière a évolué, mais quand même, 37 ans pour jouer une sorcière, c'est quand même jeune. Et aussi, par exemple, Meryl Streep, que j'adore de tout mon cœur. Meryl Streep, elle a cru que sa carrière allait arriver à un point final à l'année de ses 40 ans. Parce que Meryl Streep, elle avait raconté dans une interview que l'année de ses 40 ans, elle n'a reçu que 3 scénarios. Et dans ces 3 scénarios, elle devait jouer une sorcière. Et elle s'est dit, ok, bon bah voilà, ça c'est fait. Je ne vais plus jamais jouer de ma vie parce que voilà, je suis catégorisée en sorcière. Donc bon, elle a refusé ces scénarios. Elle a refusé de jouer là-dedans parce que justement, elle ne voulait pas être catégorisée comme telle. Et donc, voilà, bon, après, elle a eu d'autres opportunités. Voilà, elle a continué à faire évoluer sa carrière et elle a joué une sorcière qu'en 2014, quoi, dans Into the Woods. Mais on voit vraiment que c'est ces rôles-là qui sont limite un passage obligatoire dans la carrière d'une actrice.
Merci beaucoup à Jeanne et à Laura d'avoir mené cette interview. Est-ce que l'une d'entre vous aimerait réagir ? Amandine.
Et c'est surtout que ce sont des rôles qui sont assez binaires. Comme tu le disais, c'est vraiment des espèces de stéréotypes dans lesquels elles sont empêtrées. Et de l'autre côté, je trouve qu'on offre de vrais films. Je sais pas si on pourrait dire des films de seniors, parce que c'est pas exactement le cas, mais où on voit des personnages qui ont plus de 50 ans, enfin, en tout cas des acteurs qui ont plus de 50 ans, qui incarnent des personnages qui ont plus de 50 ans, et qui sont des vrais héros. Enfin, je pense qu'on a quand même une saga qui s'appelle The Expendables, où c'est Schwarzenegger et... mince, j'ai oublié son nom. Et Stallone, qui ont quand même 70 ans passés, et qui sont quand même des héros, enfin voilà, en train de... Enfin, qui prolonge en fait la figure héroïque qu'ils ont construit au fil de leur carrière, et ils n'ont pas perdu en fait de cet héroïsme, et la preuve c'est que ça vend toujours. Et même plus récemment, on a un film par exemple comme Drunk de Thomas Vinterberg. J'ai du mal en fait à imaginer un film comme ça avec des femmes, des quinquagénaires qui remettraient en question plutôt leur vie, avec une espèce de réflexion existentielle sur qu'est-ce qu'être une femme à 40, 50 ans, alors que là, c'est quand même un film qui parle de qu'est-ce qu'être un homme à 40, 50 ans, et c'est un film en plus qui est très masculin, mais enfin, j'ai pas d'exemple en fait de film, enfin si j'en ai quelques-uns, ou alors quand c'est des films justement avec des quinquagénaires qui se remettent en question, c'est des trucs qui sont en fait à destination de public féminin, enfin c'est vraiment targeté pour des films de femmes, comme si en fait ces personnages-là ne pouvaient intéresser uniquement que des femmes. Et alors que, enfin, je veux dire, The Expendables, enfin, Drunk, c'est des films que tout le monde va voir, et à aucun moment on se pose la question de savoir, ah, c'est encore un film de mec avec des vieux mecs dedans. Enfin, il y a un décalage, en fait, assez impressionnant.
C'est exactement ça. Bah, surtout que là, tu vas parler de Stallone. Stallone a quand même eu un rôle marquant dans sa carrière qui est Rocky, et il a su le jouer à n'importe quel âge, dans sa quarantaine, dans sa cinquantaine, dans sa soixantaine, même maintenant dans Creed, où il a plus de 70 ans, et du coup, il joue encore ce personnage, même si maintenant, il est un peu plus mis de côté. Alors qu'il n'y a pas de rôle de... en tout cas, j'ai pas l'exemple de rôle d'héroïne qui a autant marqué le cinéma dans le temps. Après, on peut parler par exemple de Princesse Leia avec Carrie Fisher, où il y a eu quand même un gros gouffre entre le moment où elle est apparue la dernière fois dans Star Wars et le moment où elle est apparue dans l'épisode 7. Mais à part Princesse Leia, où on a pu la voir et jeune et plus vieille, je n'ai pas de...
Où on parlait d'Halloween la dernière fois.
Ouais, voilà, il y a,
oui,
y a
voilà, c'est vrai qu'il y a Halloween. C'est vrai qu'il y a maintenant Halloween, mais en tout cas, c'est très rare. Et surtout, quand c'est fait, les actrices, on parle souvent du coup du fait qu'elles ont vieilli, alors que Stallone, on n'a jamais parlé du fait « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a vieilli ?» Évidemment, de toute façon, tout le monde vieillit, donc évidemment, on peut perdre... évidemment, il y a une évolution dans les corps, dans les visages de ces acteurs et ces actrices, mais on va dire que si, par exemple, Stallone, on ne va pas du tout parler de ça, comme pour The Expendables, justement, c'était mis en avant le fait que, malgré son âge, il puisse encore faire des films comme ça, c'est génial. Par contre, quand Carrie Fisher a repris son rôle de Princesse Leia, on n'a parlé que du fait qu'elle ait vieilli, que du fait que son corps ait changé, que du fait que, du coup, voilà, c'est autour du corps, de son vieillissement. Alors que, par contre, quand c'est un homme, j'ai l'impression qu'on parle moins du fait qu'il ait changé, qu'il ait vieilli.
Bah à partir du moment où une femme vieillit, on va s'intéresser à son corps qui vieillit. À partir du moment où un homme vieillit, on va s'intéresser à son esprit qui vieillit, je pense.
Je suis assez d'accord, et je trouve que c'est vraiment lié au fait que l'actrice, comme l'acteur, leur objet de travail, c'est leur corps, et ils peuvent pas le dissocier finalement. C'est quand même un des rares métiers où, bah oui, effectivement, t'as ta vie privée, t'as ta vie professionnelle, mais il y a quand même un truc qui relie les deux, c'est ta personne physique. Pour glisser une source, on a pu lire, ou en tout cas se baser sur un livre qui s'appelle L'âge des stars, des images à l'épreuve du vieillissement, qui a été écrit par trois personnes, à savoir Gwenaëlle Legras, Charles-Antoine Courcou et Raphaël Moine, où justement il est question dans les premières pages de parler du fait que c'est presque une suite logique, étant donné ce qu'on nous vend à nous les femmes pour ne pas vieillir. Je veux dire, le nombre incalculable de publicités que vous pouvez retrouver dans le métro, à la télé, etc., avec des crèmes anti-âge, anti-vieillissement, cette injonction en fait à la jeunesse presque éternelle, comme si nous on n'avait absolument pas envie de vieillir. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, Manon, sur le fait qu'on va plus mettre en avant sens, l'expérience masculine. Contrairement aux femmes, on va leur demander quand même de garder un physique qui fait rêver, qui est vendeur, qui donne encore envie, en fait. Et je trouve que le livre dont je parle en parle un petit peu, et j'y avais pas du tout pensé avant de faire des recherches sur ce sujet, c'est la chirurgie esthétique. Tu parlais de Stallone ou de Schwarzenegger, enfin, vous parliez, Amandine et Laura, de ces deux figures quand même qui ont traversé le cinéma depuis les années 70-80. Ils ont fait de la chirurgie esthétique, et d'ailleurs, très souvent, les gens en parlent quand même. Ah bah, Stallone, il a fait ci, il a fait ça. Mais je trouve que ça ne les empêche pas, en fait, de continuer leur travail, et que c'est moins une injonction que pour les actrices, où si elles en font pas, on va dire qu'elles font vieilles, et si elles en font, on va leur reprocher d'en faire. Je trouve qu'il y a vraiment un double discours sur le vieillissement des femmes qui se répercute évidemment sur le cinéma, qui est un art où de toute façon on te voit. Propre du cinéma, c'est l'image. Et je trouve ça assez intéressant, en fait, de voir qu'elles doivent, en fait, faire face à ces injonctions dans leur vie tout à fait lambda hors des caméras, et que ces injonctions se répercutent directement, en fait, sur le cinéma. Tout à l'heure, Amandine, tu parlais de Mads Mikkelsen dans Drunk. J'ai une anecdote qui était d'ailleurs aussi au festival, au festival de Cannes en 2018. Mads Mikkelsen était venu présenter un film qui s'appelait Arctique. Il est venu sur le tapis rouge avec sa compagne, qui a donc le même âge que lui, donc qui a des cheveux blancs comme lui, et je vous jure que dans la salle, je n'ai entendu que des « mais c'est sa mère », et j'étais vraiment choquée, parce que je me suis dit que les gens avaient tellement l'habitude de voir les acteurs avec des actrices ou des femmes beaucoup plus jeunes, et donc des femmes qui sont dans leur trentaine, qui n'ont pas de cheveux blancs, etc., que quand ils voient un acteur avec une actrice ou une compagne de leur âge, ça les choque parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors que dans la vie des communs des mortels, la plupart des gens sont avec des gens qui ont à peu près le même âge. Et je trouvais ça assez révélateur j'étais quand même entourée de gens qui voyaient des films, et en fait le fait qu'on soit étonné de voir une personne avec une autre personne de son âge, c'était aussi révélateur de ce qu'on avait l'habitude de voir au cinéma.
Tu parles de Mads Mikkelsen, mais récemment, il y a eu Keanu Reeves aussi qui, pendant un tapis rouge ou une avant-première, il me semble que c'était pour John Wick 3, a présenté sa compagne actuelle qui, du coup, est un peu plus vieille que lui. Il me semble que lui, il a 52-53, elle est la plus proche de la soixantaine, et les gens ont été absolument choqués qu'elle soit plus vieille que lui, et qu'en plus de ça, elle assume son âge, je mets ça entre guillemets, elle fait son âge, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux blancs et que elle a des rides comme une femme de 60 ans. Et du coup, j'aimerais rebondir au fait, vu que je parle de Keanu Reeves, que aussi on parle souvent, on encense les acteurs qui malgré leur âge puissent continuer à tourner des films d'action. Surtout Keanu Reeves pour John Wick fait beaucoup de cascades lui-même. Et je me souviens que pour John Wick 3, où du coup il y a Alberi qui a à peu près le même âge que lui, qui a tourné le film, qui a aussi fait ses propres cascades, on a été étonnés qu'elle puisse, à son âge, faire aussi ses propres cascades, alors qu'elle tourne avec un acteur qui a le même âge qu'elle et qui fait aussi ses propres cascades, dont personne ne remet en question le fait qu'il puisse le faire. Donc c'est aussi le fait que, je sais pas, on a l'impression que les hommes, même malgré leur âge, peuvent continuer à avoir des scènes d'action et être actifs. Et c'était tout à fait normal, mais par contre, les femmes qui ont le même âge ne peuvent pas, ou en tout cas, c'est assez exceptionnel, entre guillemets, qu'elles puissent, malgré leur âge, pouvoir faire des scènes de cascade, pouvoir faire des sauts. C'est en fait, c'est ce double standard où un homme est capable et une femme, c'est exceptionnel qu'elle soit capable à son âge, oh mon Dieu.
De toute façon, l'industrie du cinéma est quand même une industrie qui est très portée sur le jeunisme, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de discrimination pour les femmes plus vieilles de 50 ans. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la chirurgie esthétique et aux cheveux gris, je veux dire, les cheveux gris, c'est vraiment peut-être un des signes de vieillissement qui est assez symbolique, en fait, de la différence de traitement. Chez les hommes, en fait, c'est les très beaux cheveux poivre et sel. Là, j'ai vu encore récemment, c'était Georges Clooney avec ses cheveux gris qui faisait pardon, la couverture de son film. Et à côté, en fait, quand il y a des actrices qui assument ses cheveux gris, tout de suite, en fait, on les considère en fait comme des vieilles femmes. Et de toute façon, c'était ce que Mona Chollet aussi avançait dans son livre « Sortir la puissance invaincue des femmes », c'est que de toute façon, la chevelure grise, en fait, c'est aussi synonyme de ménopause, d'infertilité. Et ça a été pendant longtemps un des signes des sorcières, en fait, qui assumaient leur vieillesse. Donc oui, quand on n'a pas l'habitude, en fait, de voir des femmes avec des cheveux gris au cinéma. Et de toute façon, il y a, en fait, l'industrie du cinéma et surtout la presse people et tout ce qu'il y a autour, en fait, de ces actrices, on scrute en fait les vieillissements, on scrute leur moindre trait du visage, leur moindre ride. Et de toute façon, c'est une des questions qui est posée assez tôt dans la vie des actrices, c'est est-ce que vous allez passer, est-ce que vous allez faire du Botox, est-ce que vous allez faire de la chirurgie esthétique. Et en plus, voilà, vraiment, il y a cette idée qu'on analyse à chaque fois les corps des actrices. Et puis, bah, comme tu disais, Pauline, soit elles n'en font pas, et voilà, c'est presque des sorcières, c'est la mère de Mads Mikkelsen, enfin, elles sont trop vieilles, etc. Soit elles en font, et puis on se moque quand même d'elles. Enfin, je veux dire, prenez l'exemple de Brigitte Bardot, qui est quand même assez... assez triste, mais pas triste dans le sens où elle en a fait, c'est surtout triste dans le traitement médiatique qu'il y a autour de cette actrice, qui était pendant très longtemps une des grandes sex symboles du cinéma français, et qui, en fait, je pense, a aussi fait de la chirurgie esthétique pour essayer de conserver cette aura, cette aura séduisante. Et maintenant, enfin, je veux dire, c'est vraiment devenu un des objets de moquerie tout le temps. Enfin, je veux dire, Brigitte Bardot, on parle que de ça, de son Botox, etc. Sans entrer dans toutes ses idées politiques ni quoi que ce soit. Mais quand on parle de Brigitte Bardot, enfin, c'est vraiment un des exemples qui revient à chaque fois. C'est vraiment, bah, voilà, c'est l'actrice qui est tombée un petit peu... voilà, elle est passée de la très très belle actrice à une femme qui est passée sous le Botox et qu'on méprise un petit peu et qui, enfin voilà, qui n'a plus sa place en fait dans l'industrie. C'est quand même, enfin, je trouve que c'est quand même très triste en fait.
Amandine, tu parlais des magazines et justement dans le livre dont je parlais sur l'âge des stars, ils avancent le fait que c'est aussi lié parce que les acteurs et les actrices font partie surtout du star system. Alors c'est surtout le cas à Hollywood, hein, je pense que ça, clairement, tout le monde est au courant. Et je vais juste lire un petit passage qui me semble... assez révélateur de tout ce qu'on vient de dire. Enfin, il convient d'insister sur le fait que si la star entretient une relation complexe avec le vieillissement, c'est certainement aussi en raison de la nature de son statut. Comme l'explique Graeme Turner dans son introduction au numéro inaugural de la revue Celebrity Studies en 2010, la condition de star est moins le résultat de la reconnaissance de qualité intrinsèque que l'aboutissement d'une médiatisation. La star est le produit d'une transformation qui l'a fait accéder à un statut chargé de sens oscillant entre un capital de puissance et une dimension marchande. À cet égard, le processus de starification n'est donc potentiellement jamais très éloigné de la possibilité de faire tomber son objet dans l'abjection. Un jour, comme si le pouvoir quasi démiurgique associé aux stars était toujours susceptible de se muer en négativité, de les faire passer de la sacralisation à une objectivation dégradante, du monstre sacré au monstre tout court. Eux, ils prennent comme exemple, par exemple, Britney Spears. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a encore énormément critiqué. Bon, là, ça dépasse le cadre du cinéma. Mais effectivement, c'est comme tu disais, Amandine, pour Brigitte Bardot. Alors, Catherine Deneuve, elle garde un peu cette aura d'élégante, la femme élégante, la femme toujours à la mode. On la voit sur pendant les Fashion Week, etc. Donc, elle a encore cette espèce d'aura iconique. Mais c'est vrai que moi, il y a un truc, et je crois que je vous en avais parlé quand on a préparé l'épisode, c'est le fait que beaucoup de médias, quand ils parlent d'une actrice, et je trouve que c'est le cas par exemple pour Audrey Hepburn, on a quand même beaucoup de photos d'elle plus âgée, et pourtant la plupart du temps, on illustre un tweet, un article, dès qu'on parle d'elle, par des photos d'elle jeune, comme si la photo d'elle plus âgée... était moins intéressante.
Oui, puis c'est encore le cas pour des actrices qui sont encore vivantes, ce qui est quand même assez terrifiant dans la mesure où elles existent, en fait.
C'est exactement ça. En fait, on s'aperçoit dans la plupart des cas, surtout dans les magazines qui, par exemple, veulent faire un portrait d'actrice qui soit est décédée, soit est encore vivante, on va s'apercevoir qu'on va prendre des photos d'elle jeune que des photos d'elle, soit qui est l'âge qu'elle a actuel, ou des photos plus vieilles. Ça, on s'aperçoit de ça, c'est vrai que sur Audrey Hepburn, qui pourtant, même si elle a vers la fin de sa vie, n'a pas eu une carrière cinématographique, à part pour quelques films un peu où elle a fait des seconds rôles. Un de ses derniers rôles, c'était dans un film de Spielberg. Mais du coup, elle a quand même eu un impact, enfin, elle avait quand même une vie médiatique où elle a souvent été prise en photo parce qu'elle faisait beaucoup d'œuvres de charité. On l'a beaucoup vue dans des événements, etc. Mais par contre, ces photos-là n'existent presque pas, ou alors il faut bien les chercher. Mais quand on parle d'Audrey Hepburn, évidemment, on va parler d'elle. Les photos qu'on voit le plus, c'est celles où elle est avec le film Diamant sur canapé, ou sinon dans des soirées où elle était jeune. Mais c'est vrai qu'on ne la voit pas vieille. Et c'est quelque chose qu'on s'aperçoit aussi actuellement. Par exemple, si on parle de Sigourney Weaver, on parle surtout de Sigourney Weaver jeune et pas Sigourney Weaver qui a maintenant plus de 70 ans.
Je pense qu'il y a un film qui illustre assez bien le traitement par Hollywood des femmes, on va dire, en guillemets, d'un certain âge, parce que j'estime pas non plus que ce soit très vieux. Un film récent, c'est Maps to the Stars de David Cronenberg, dans lequel le personnage de Julianne Moore joue justement une actrice qui voit sa carrière descendre, tout simplement, parce qu'elle a vieilli. Et elle voit les images de sa mère qui a elle-même été actrice et qui est décédée dans sa jeunesse, qui était une mère incestueuse en plus, lui murmurer à l'oreille qu'elle est vieille, qu'elle a les seins qui tombent. Et à un moment, on recommande à cette femme, qui est donc interprétée par Julianne Moore, qui s'appelle Havana, de se reconvertir en tant qu'agent puisqu'elle ne trouve plus de rôle.
Bah oui, c'est vrai que le cinéma aussi a abordé... Moi, je pense... là, tu as parlé de Map to the Stars, donc c'est un film qui est assez récent. Mais dans les années 50, à Hollywood, on a eu par exemple Eve avec Bette Davis qui parlait aussi du fait de ce cap des 40 ans où du coup, elle sent qu'elle va être remplacée par des actrices plus jeunes. Et d'ailleurs, Bette Davis, c'est un exemple assez frappant dans le cinéma hollywoodien, où ça a été pendant les années 30 et 40 une actrice qui jouait beaucoup des rôles assez marquants, des premiers rôles où elle a été oscarisée, elle a été nommée aux Oscars beaucoup de fois. Mais à partir de ses 40 ans, elle s'est aperçue qu'en fait, elle ne tournait plus autant. Enfin, si, parce que quand on voit sur la page Wikipédia, chaque année, elle a des films. Mais en fait, elle tournait des rôles beaucoup moins marquants, des seconds rôles, à part quelques rôles comme par exemple Eve, comme je l'ai dit, ou après, sinon, dans sa cinquantaine, elle a tourné un film assez marquant qui est-il arrivé à Baby Jane. Mais en fait, elle s'est aperçue que, vu son âge, elle ne tournait plus des rôles qu'elle trouvait intéressants. Et du coup, pour la petite anecdote, en fait, en septembre 62, donc elle avait 54 ans, ce qui est quand même assez jeune, elle a écrit une petite annonce dans le Hollywood Reporter, et du coup, je vais vous lire. Donc elle dit « Mère de trois enfants, âgée de 10, 11 et 15 ans, divorcée de nationalité américaine, 30 ans d'expérience dans le domaine cinématographique, encore alerte et plus aimable que ne le prétend la rumeur publique, cherche emploi stable à Hollywood, connaît Broadway, Bette Davis, référence à l'appui. » Donc c'est drôle, parce que c'est vrai que du coup, elle avait la réputation d'être une grande gueule et d'avoir beaucoup d'humour, mais d'un autre côté, ça aussi, ça montre qu'à partir d'un certain âge à Hollywood, les actrices étaient vraiment considérées comme finies. Et du coup, elle était quand même jeune, elle n'avait que 54 ans. Elle a continué à tourner après les années 60, mais dans des rôles beaucoup plus moindres, et elle a fini sa carrière dans des téléfilms que personne regardait, ou en tout cas qu'on ne cite pas quand on cite sa longue et grande carrière. Et c'est d'un côté, c'est drôle, mais d'un autre côté, je trouve que c'est assez triste et...
Ben justement, Laura, ce que tu me dis, ça me refait penser à un autre passage de Maps to the Stars, justement pour continuer sur ce film qui est un peu une satire d'Hollywood. Dans une scène, il y a un groupe de jeunes acteurs qui sont encore adolescents, il me semble qu'ils ont quelque chose comme 13 ans, qui pour le coup se comportent comme s'ils étaient beaucoup plus âgés, en plus ils prennent de la drogue, ils boivent de l'alcool, enfin un comportement qui n'est pas vraiment habituel pour des enfants de 13 ans. Et il y a dans ce groupe, il y a des filles et des garçons qui discutent. Et il critique une star qui a 23 ans et dont l'IMDB annonce qu'elle a 16 ans, ils disent d'elle qu'elle est ménopausée. Je trouve que c'est assez parlant au final de ce qu'on peut, de la façon dont on voit les femmes. Et aussi dans la façon dont on s'imagine une ménopause des femmes à partir d'un certain âge. On parlait tout à l'heure des cheveux blancs, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que les cheveux blancs peuvent arriver à des moments très différents de la vie en fonction des femmes. Il y en a qui se mettent à aller avoir les cheveux blancs dès 25 ans. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont ménopausées pour autant ? Non, et puis même si elles étaient ménopausées, ça ne changerait absolument rien.
Moi, je trouve que ce qui est assez révélateur dans ce que tu dis, Manon, c'est qu'on l'histoire des femmes n'est toujours reliée à leur corps et à leur biologie, entre guillemets, à savoir qu'une femme est désirable à partir du moment où elle est jeune femme et donc on le suppose qu'elle est fertile. Et la ménopause, ça veut quand même dire fin d'une fertilité. Et je trouve que c'est quand même un truc qui remonte à des textes anciens sur les conditions des femmes, etc. Et en fait, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les films. D'ailleurs, très peu de films parlent lorsque les femmes sont plus âgées. C'est aussi ça, en fait, le fait du gap entre 50 et 65 ans. C'est plus ou moins là qu'on sait qu'une femme va potentiellement être ménopausée. Je parle de généralité, hein, mais ça veut pas dire que c'est ça pour tout le monde. Et je trouve que ça en dit long, en fait, sur comment on perçoit dans notre société une femme, même à travers un art, qui est quand même, on parle de fiction. Donc c'est même pas, normalement, il n'y a pas besoin de représenter une certaine réalité, ou en tout cas, ça n'aurait normalement pas dû avoir des répercussions sur les rôles des actrices, etc. Pour contrebalancer ça, je pense notamment à la série Grace and Frankie, qui parle justement de deux copines qui ont 60-70 ans et qui vont parler assez librement de leur sexualité, de leur corps, comment en fait elles vieillissent. Elles font un espèce de manifeste justement au vieillissement, au fait que les femmes, en fait, en vieillissant, en fait, elles sont abîmées par la vie pour plusieurs raisons. Alors certaines ont des enfants, donc c'est une épreuve physique à surmenter. Certaines ont été, quand on voit toutes les statistiques sur les violences faites aux femmes, etc., ça peut aussi l'expliquer. Et je trouve qu'on prend pas assez en compte, ou alors si on prend en compte de manière très négative, qu'une femme qui est plus âgée et qui a donc plus vécu est une femme qui est abîmée et qui ne vaut plus finalement, ça ne vaut plus la peine en fait. Il n'y a plus cette espèce de maniabilité qu'il peut y avoir quand on est plus jeune.
Et la dégénérescence d'une femme qui vieillit est aussi très tabou. Bon, de base, c'est quelque chose de tabou. Le fait qu'on ait des aînés qui perdent leur tête est extrêmement tabou. Mais quand c'est une femme, ça l'est encore plus, j'ai l'impression. Après, pour continuer justement sur la carrière de Julianne Moore, je trouve que c'est une actrice qui a compilé les œuvres entrant dans ce sujet-là, parce qu'elle a quand même compilé Gloria Bell, Still Alice et Maps to the Star, qui justement ont tous les trois un point de vue différent sur la question.
Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un vrai tabou sur la dégénérescence presque mentale des femmes, et même alors c'est pas vraiment une dégénérescence, mais sur le vieillissement du corps. Je veux dire, tout ce qui est ménopause, tout ce qui est rides, tout ce qui est seins qui tombent, c'est des choses qu'on voit pas au cinéma. Et en fait, il y a cette idée qu'on ne veut pas les voir. Je pensais à un film, je pensais au Grand Bain. Le film où en fait, on a plusieurs acteurs qui ont à peu près 50 ans, qui incarnent des personnages justement qui remettent un peu leur existence en question, qui sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, et qui essayent de se retrouver avec leur corps, etc. Et c'est un film qui a un regard très tendre justement sur leur corps. Enfin, je veux dire, on a quand même Mathieu Amalric qui a 55 ans, Benoît Poulevard qui a 56 ans, puis on voit les ventres qui tombent, on voit les rides, et pourtant il n'y a aucun jugement en fait sur ces corps. Et ça a été un grand succès, enfin je veux dire, c'était quand même présenté en hors compétition à Cannes, c'était un grand succès public. Ça pose la question de est-ce qu'on a un film comme ça, ou est-ce que ça serait même à imaginer en fait, est-ce que l'idée d'un film avec uniquement des femmes, des quinquagénaires en maillot de bain, avec justement avec les traces du temps sur leur corps, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ça serait un aussi grand succès? J'en sais rien, et déjà il faudrait qu'il y en ait un, parce que j'ai pas du tout d'idée de film de ce genre en tête. Mais il y a un vrai tabou en fait sur ces corps à l'écran. Puis même, de toute façon, on regarde pas les femmes au-delà de 50 ans de la même manière qu'on regarde les hommes. On regarde pas par exemple Meryl Streep comme on regarde Brad Pitt. Enfin, je veux dire, on pense à la scène de de Once Upon a Time, in Hollywood, où on a Brad Pitt torse nu sur son antenne. Enfin, je veux dire, on en a entendu parler pendant des semaines et des semaines, parce qu'effectivement la scène est super. Enfin, je veux dire, oui, Brad Pitt est super beau, il y a pas de doute là-dessus. Non mais enfin, je veux dire, il y a pas de débat. Mais est-ce qu'on voit Meryl Streep en maillot de bain en train de changer une antenne en haut? Enfin, je veux dire, la scène, quand on y pense, limite ça fait rire, mais parce qu'en fait on n'a pas l'habitude. Alors qu'en fait, il y a tellement un tabou autour de ça que ça paraît inimaginable, alors que Brad Pitt, George Clooney, etc., enfin, je veux dire qu'ils sont torse-poil sur, sur un toit, ben, en fait, tout le monde est « waouh, c'est génial, c'est incroyable », et l'inverse, en fait, paraît complètement halluciné, en fait.
Bah, la valorisation de ces corps de 50 ans, j'ai deux exemples en tête, j'ai Jennifer Lopez et Jennifer Aniston, où, en fait, on parle très souvent d'elle, quand elle, l'année dernière, il y a 2 ans, Jennifer Lopez avait remis sa robe qu'elle avait portée, la robe verte, tout le monde voit très bien de quoi je veux parler, sur ce fameux catwalk Versace, qui est une robe qui montre, clairement, il n'y a pas beaucoup de tissu, et ça montre la sculpture du corps de Jennifer Lopez. Et il y a 1 ou 2 ans, elle a remis cette robe, donc elle a plus de 50 ans. Je veux dire, il y a aussi le film Queens qui est sorti, où elle était dedans, et tout le monde, toutes les personnes qui l'ont vu se souviennent de cette scène où elle est sur une barre de pole dance, et en fait, on se dit... La meuf à 50 ans, elle arrive à faire ça. Et je trouve que c'est... Elles sont toujours valorisées aussi de ce point de vue-là. Jennifer Aniston, le nombre de fois où en fait on parle plus du fait qu'à 50 ans, elle a toujours sa silhouette qu'elle avait à 30 ans dans Friends, c'est un nombre incalculable de fois où on le voit même dans les couvertures de magazines, même dans les articles de magazines, où quand Jennifer Aniston est dans une nouvelle série, un nouveau film, ce qu'on va mettre en avant, c'est des photos d'elle sur la plage, en maillot de bain, etc. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut la bully parce qu'elle a un corps de ouf, hein. Je suis juste en train de dire que à chaque fois, ces femmes, notamment Jennifer Lopez et Jennifer Aniston, sont valorisées parce qu'à 50 ans, elles arrivent à avoir ce corps. Comme si ce corps était finalement le corps acceptable pour qu'une femme de 50 ans soit désirée et désirable.
En fait, il y a une espèce de rigueur sur les femmes qui doivent absolument pas faire l'orage, qui doivent absolument être sveltes, qui doivent absolument avoir la police malgré les années qui passent. Et là, enfin, c'est assez récent, mais par exemple, là, je vais parler de Kim Kardashian. Donc, voilà.
Donc, ça, oui, ça c'est arrivé sur Survivor.
C'est super important. Enfin, je trouve que c'est super intéressant d'étudier les Kardashians. Hein. C'est vraiment quelque chose de super intéressant.
Ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais pour le coup, il me semble que c'est cet été où elle a fêté ses 40 ans et elle a posté une photo d'elle où elle disait « This is 40 » en mode « ça, voilà, ça, c'est à quoi ça ressemble à 40 ans », genre avec en bikini, avec évidemment son corps magnifique, où elle est vraiment normée, avec des hanches, avec un ventre très très plat. Et je me dis que... C'est pas ça 40 ans, enfin c'est 40 ans pour elle, mais c'est pas 40 ans pour la plupart des femmes. Et on voit très bien aussi toutes ces actrices qui évidemment sont magnifiques, mais qui ne ressemblent pas à ce qu'on pourrait ressembler nous plus tard, ou ce que ressemblent les femmes de 40 ans, 50 ans, 60 ans maintenant. Et par exemple, Jane Fonda parle beaucoup en interview comme quoi elle est très rigoureuse dans sa vie de tous les jours, où elle fait de la gym tous les jours, où elle mange pas gras, enfin elle fait très attention à son alimentation, à son activité physique. Elle a vraiment une rigueur que évidemment qu'on impose aux femmes et qu'elle s'impose aussi à elles, mais aussi ça vient aussi du fait qu'elles sont quand même assez privilégiées dans leur vie. Elles ont quand même un salaire qui leur permet de pouvoir aller s'inscrire à la gym, avoir une alimentation équilibrée, avoir aussi accès aux soins. Ça, c'est quelque chose, surtout aux États-Unis, qui est assez, dont on parle très peu, mais qui, du coup, joue aussi sur le fait qu'on puisse paraître jeune ou non, comparé aux femmes, on va dire, lambda, qui n'ont pas forcément accès à ces soins, qui n'ont pas forcément accès à l'argent qui puisse permettre à avoir un corps de rêve. Et c'est le fait qu'on nous présente ces corps-là comme quelque chose qu'il faut qu'on ait, alors que c'est presque impossible à avoir, parce que déjà, il y a Photoshop. Aussi, c'est quelque chose qui faut parler, parce que la plupart des magazines qu'on voit, même les magazines cinéma, les couvertures sont quand même photoshopées, il faut le savoir.
Bah, après, juste pour... désolée, hein, je te coupe, mais ça va être très bref.
Il n'y a pas de souci.
On a tendance à penser que les corps ne peuvent pas être complètement retouchés par la chirurgie esthétique, hors la poitrine, mais c'est complètement faux. Il y a des injonctions, mais il y a des injections... Pour les hanches, pour les fesses, on peut tout refaire. On peut mettre des prothèses fessiers, je sais pas comment on dit. Enfin, on peut se mettre des prothèses dans les fesses. Donc, c'est pas parce qu'on voit quelque chose en vidéo que c'est quelque chose qui est biologiquement sorti comme ça de la nature, du ventre de la mère. Et je dis pas que c'est mal de faire ce genre de chirurgie. S'il y en a qui veulent les faire, si elles se plaisent comme ça, si elles aiment ça, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément quelque chose qui est là de base. Et c'est pas parce que c'est une vidéo que c'est vrai, et ce n'est pas parce qu'on ne correspond pas en ce corps en vidéo que c'est mal.
Exactement. Non, et puis surtout, y a, au cinéma, on parle pas assez, mais les acteurs et actrices sont maquillés pour les scènes. La lumière fait que la peau paraît lisse, fait que tu parais à ton avantage. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu, parce que quand on voit ces images-là, on se dit « Oh là là, mais ces personnes sont magnifiques !» Alors oui, ils sont magnifiques, je dis pas, mais aussi ils sont aidés par les techniciens, ils sont aidés par l'image pour paraître vraiment à leur avantage.
Et il faut aussi savoir que la cellulite se gomme en post-production. C'est possible, donc c'est pas parce qu'on voit des jambes, des fesses de stars sans cellulite qu'elles en ont pas. Tout se gomme aujourd'hui à l'image, les vidéos peuvent être complètement retouchées. Donc c'est-à-dire que si vous voyez un corps sans vergeture, sans cellulite, alors il y a du maquillage certes, mais il y a aussi toute la retouche aujourd'hui qu'on peut faire en post-production qui va faire en sorte que le corps sera complètement lisse, même si de base il n'est pas comme ça. Donc imaginez ce qu'il y a en tout, il y a le travail de la lumière, il y a le travail du maquillage, et en plus il y a le travail de retouche sur la post-production.
Ce qui est dingue, Manon, c'est ce que tu dis, ça rejoint aussi ce qu'on disait sur les magazines. Combien de fois, enfin sur les magazines que personnellement je vois que chez mon dentiste et chez mon médecin, où c'est des magazines type Closer et toute cette presse People, où en fait il y a des énormes zooms sur telle ou telle actrice, sur Scarlett Johansson qui est à la plage avec ses gamins, et en fait on va zoomer sur ses fesses pour montrer que, ah vous voyez, on vous a pas montré, mais en fait elle a de la cellulite. Je trouve que c'est soit un travail de démystification de la star, mais je pense pas que ce soit ça, je pense surtout que c'est l'envie aussi d'humilier un peu cette image qu'on a de la femme parfaite, etc. Et puis c'est surtout que la plupart du temps, c'est des injonctions qui sont faites uniquement aux femmes. Une seule fois, j'ai vu dans ces magazines, lors d'un rendez-vous chez le médecin, juste des photos de DiCaprio avec son petit ventre apparent, et où il se moquait largement de lui en disant que c'était mieux à l'époque de Titanic et qu'aujourd'hui il coulerait encore plus. Et je trouve que vraiment il y a une espèce de... T'as pas le droit en fait de ne plus vendre un corps de rêve que t'as vendu. Soit pendant des années, soit parce que ça a été gommé, comme tu le dis, Manon, et que c'est hors de la réalité. Et je trouve ça assez parlant aussi sur le fait que on peut pas, en fait, ne pas relier l'image cinématographique à une réalité. Et juste à travers l'image de l'acteur ou de l'actrice, c'est impossible de délimiter ces deux. Dans tous les cas, on va leur rattraper, en fait, le col en mode... Bah, tu vois, dans ce film, t'étais comme ci, dans ce film, t'étais comme ça, et puis là, dans la réalité, t'es comme ci ou t'es comme ça. Et je trouve que c'est... En fait, ça parle vraiment aussi de... Je disais en introduction que le manifeste qui a été fait par l'Association des actrices et des acteurs de France dit dans son manifeste que, en fait, c'est un sujet de société. Je pense que ça l'est réellement, et c'est aussi un sujet de cinéma. C'est quand même qu'on a des images qui n'apparaissent pas ou ne sont pas du tout dites. Et tout à l'heure, vous parliez de Gloria Bell. Moi, je trouve que c'est un film magnifique, justement, sur la vieillesse d'une femme. Donc, elle est jouée par Julianne Moore. Et je trouve que ça donne presque envie, en fait, de vieillir. Cette espèce de maturité qui s'en dégage, de plaisir qu'elle a. Alors, le film est très enivrant, on a super envie de danser. Moi, je me souviens qu'en sortant du cinéma, j'ai téléchargé la BO et j'arrêtais pas de danser. Et je trouve qu'il y a une espèce... C'est très positif, en fait, comme film. Contrairement à des films où, tout à l'heure, Laura, tu t'as cité Eve ou qu'est-il arrivé à Baby Jane. Je pense aussi à Sunset Boulevard, où, en fait, on a vraiment cette idée que le vieillissement, bah, c'est mal, c'est triste. Alors dans le livre dont je parlais tout à l'heure, il relie ça aussi en fait à la condition humaine, à savoir la mortalité. Alors là, c'est plutôt une question philosophique, à savoir que bah oui, quand on vieillit, on se rend compte qu'on meurt finalement. Et je trouve ça... je trouve que ça fait vraiment un melting pot de ce qu'on peut... ou pas créé au cinéma. Et je trouve que Gloria Bell, donc, est un film qui a été réalisé par Sébastien Lillo, ça montre bien en fait cette Je trouve que c'est presque un film à part où on a vraiment cette vieillesse qui est acceptée et qui donne envie presque d'être un peu plus vieille, de vivre nos désirs, nos envies, cette liberté qu'elle a. Comme Grace and Frankie d'ailleurs, il y a vraiment des passages où on a envie d'être avec elle, de discuter avec elle, on a envie que nos copines vieillissent avec nous, d'aller boire un thé, etc. Et c'est assez rare en fait finalement dans le cinéma, mais c'est aussi assez rare dans la société. Je veux dire, on vit en pleine pandémie où on nous dit que si jamais les vieux meurent, c'est pas très grave quoi.
Pour revenir sur Gloria Bell, effectivement, je trouve que c'est des images qu'on voit pas beaucoup. En plus, il y a toujours cette idée que passer les 50 ans pour une femme, alors en plus, je crois qu'elle est divorcée, elle a plus d'enfants à charge, donc en fait, c'est vraiment littéralement sa mort sociale. Enfin, je veux dire, dans l'idée que voilà, passer 50 ans quand t'as plus d'enfants, quand t'as plus de mari, enfin, ça y est, t'es fini en fait. Alors que pas du tout, et je trouve que ça se voit beaucoup dans la dernière scène du film que je trouve vraiment super. Je trouve que c'est un film qui est très vibrant, où elle est en fait assise à une table, et il y a toutes ses copines en train de danser derrière, et puis elle est en train de chanter blasée à la table, et puis il y a un mec qui vient et qui lui dit tu veux venir danser, elle lui fait non, puis il y a sa copine qui lui fait tu veux venir danser, et là elle y va, et puis d'un coup elle se libère et elle reprend possession en fait de son corps, et la scène est superbe, et je trouve qu'elle est vraiment, comme tu le disais en fait, c'est ça réconcilie avec l'idée de vieillir. C'est pas quelque chose de dramatique, c'est au contraire une espèce de renouveau dans lequel le personnage en fait rentre avec beaucoup de joie et beaucoup de et d'élégance un petit peu aussi, je trouve. Enfin voilà, il y a vraiment une espèce de positivité dedans qui est assez inédite, je trouve. Mais après, je trouve qu'en même temps, ça pose la question de pourquoi cet épanouissement. Parce qu'en fait, je trouve que ce genre de portrait de femme, aussi superbe soit-il, pose toujours la question de ce sont des femmes qui sont généralement très cultivées, ce sont des femmes assez bourgeoises, blanches, dans un milieu très aisé, et on voit jamais des quinquas de milieux plus modestes ou moins cultivés, dans des maisons un petit peu plus petites, parce que, enfin, voilà, il y a toujours cette idée qu'en fait, et c'est un petit peu horrible, je trouve, que ce genre de portrait, ben, en fait, t'es une quinca épanouie parce que t'as de l'argent. Enfin, je trouve ça un petit peu grisant d'un côté, sans mauvais jeu de mots.
Je trouve que ça rejoint ce que disait Laura tout à l'heure sur... sur le fait qu'il faut quand même avoir de l'argent. Enfin, pour dire un truc un peu personnel, moi, ma mère, à chaque fois, elle me dit « Oui, mais elle a de l'argent. » Quand il y a une photo de Kim Kardashian ou ces femmes qui, effectivement, ont 40 ans ou plus elles ont des corps du point de vue de la société, sont des corps absolument sublimes, un objectif aussi à atteindre. Hein. Je pense que ça, c'est clairement aussi ce que nous renvoient ces images. Alors, pas elle en elle-même, mais quand il y a des médias qui relaient en mode Jennifer Lopez, 50 ans, toujours aussi sublime, plus sublime que jamais, etc. C'est aussi, une fois encore, remettre une injonction en disant bah, « En fait, c'est ça votre objectif à vous ». Les femmes de plus de 50 ans d'être comme ça en fait. Et moi, ma mère souvent elle dit elles ont de l'argent, et c'est vrai en fait, elles ont non seulement l'argent, donc qui dit de l'argent dit le temps probablement pour avoir un coach, pour avoir de la nourriture saine, équilibrée, qui n'est pas de la nourriture avec plein de sucre et de gras rajoutés. Enfin, je trouve qu'il y a aussi finalement une injonction aussi d'un point de vue sociétal plutôt d'argent, en fait, comme on dit.
Bah, de base, sans argent, tu fais pas de chirurgie esthétique. Vu le prix de la chirurgie esthétique,
oui,
je pense
aussi,
que t'es,
oui,
t'es vite limité à ce niveau-là. Si tu veux avoir un visage parfaitement lisse, tout botoxé, si t'as pas mal d'argent, quand même des revenus assez conséquents, tu iras pas bien loin à ce niveau-là. Après, pour revenir sur Gloria Bell, il y a quelque chose quand même que j'aimerais souligner, c'est que le personnage de Julianne Moore vit une relation amoureuse, un renouveau dans sa vie amoureuse, et à mon avis c'est pas le premier depuis son divorce, et ce n'est pas parce qu'elle a dépassé les 50 ans, je sais pas exactement l'âge qu'elle a, c'est une jeune grand-mère, une toute jeune grand-mère, hein. Ce n'est pas parce qu'elle a dépassé les 50 ans qu'elle ne peut pas vivre d'une relation amoureuse, et elle ne peut pas avoir non plus d'échec amoureux, elle ne peut pas décider d'avoir une petite vengeance amoureuse, un peu comme si elle était adolescente, ce qui est absolument hilarant d'ailleurs dans le film. J'aime beaucoup la façon dont, à son âge encore, elle peut pleinement vivre sa vie.
Et surtout sa sexualité, c'est quelque chose qu'on voit, je pense que, il me semble que c'est Amandine qui en a déjà parlé tout à l'heure, ou qu'on voit très peu la sexualité des femmes des 50 ans et plus, parce que justement elles sont ménopausées, donc du coup il n'y a plus le fait qu'elles puissent se reproduire, il n'y a plus l'injonction à avoir des enfants. Donc du coup là c'est juste une sexualité pour le plaisir, et c'est quelque chose finalement qu'on voit très peu. Surtout la nudité aussi, c'est un film, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, on voit pas un nu intégral de Julianne Moore, mais on voit sa poitrine, et c'est quelque chose qu'on voit très peu dans des films de sexualité féminine de plus de 50 ans. Et en plus de ça, on ose, entre guillemets, montrer plus de peau que d'habitude. Par exemple, je me souviens d'un film qui parle un peu de la même chose que Gloria Bell, c'était avec Meryl Streep dans les années 2000, début d'année 2010, c'était pas si simple. Donc c'est un film de Nancy Meyers, donc forcément c'est un film comédie romantique, un peu à l'eau de rose, où du coup Meryl Streep aussi est une divorcée, elle aussi qu'on recommence à avoir des aventures amoureuses, mais du coup en fait le film est très prude avec son corps et même avec sa sexualité, où du coup ses aventures ne font pas la force du film, comme par exemple quand c'est sur Gloria Bell. Et c'est quelque chose qui manque, moi je trouve, au cinéma, la sexualité des femmes de plus de 50 ans.
Elle est souvent sous-entendue, et j'ai un autre film avec Meryl Streep, alors c'est vraiment hyper caricatural ce que je vais raconter, mais j'adore Abba, je suis très contente d'en parler, mais je pensais à Mamma Mia, parce que Mamma Mia, non mais vous rigolez, mais je vous assure, j'ai revu des extraits, il y a un extrait qui m'a assez surprise, c'est dans le premier, hein, pas dans le deuxième. L'histoire c'est quoi? C'est Meryl Streep qui ne se souvient plus dans sa jeunesse avec qui elle a couché, donc il y a ses trois prétendants qui reviennent pour le mariage de sa fille, parce qu'elle sait pas lequel a été le père, donc c'est Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgård. Donc juste déjà un truc à savoir, c'est qu'ils sont pas plus vieux, ils sont pas plus jeunes qu'elle, ils ont à peu près le même âge, c'est quand même assez inouï. Mais surtout il y a une scène, moi, qui m'a fait marrer, je la trouve même super mignonne. Alors je dis pas que c'est le film de l'année, hein. C'est hyper caricatural, c'est hyper stéréotypé, mais en fait je trouve que ça donne une image qui va un peu dans le sens de celui de Gloria Bell. Il y a une scène de Dancing Queen où en fait, du coup, il y a Meryl Streep en train de faire des cabrioles sur son lit. Alors déjà, j'étais en train de faire le grand écart avec ses deux copines, donc c'est Julie Walters et Christine Baranski, donc avec le verre d'alcool à la main, en train vraiment, un peu en train de... Enfin, je sais pas, il y a un truc hyper excentrique dedans, assez mignon. Et quand elle sort, en fait, il y a toutes les quinquas du village qui viennent danser avec elle, et je trouve la scène hyper mignonne parce qu'il y a vraiment que des femmes assez âgées dedans, et c'est... En fait, c'est tellement rare que ça m'a surpris quand je l'ai vue. Mais tout ça pour dire que... Mamma Mia, aussi caricatural que ça puisse être, ça montre un personnage, celui de Meryl Streep, qui a... Alors, c'est vraiment, vraiment très prude, hein, c'est hyper prude, mais Meryl Streep, voilà, qui a eu plein d'aventures et qui revit un petit peu à travers ça les désirs de sa jeunesse, les désirs qu'elle peut avoir pour ces hommes-là, et qui est en train de danser, qui continue à boire, qui continue à s'amuser, qui continue à danser. Et encore une fois, c'est un peu la continuité de Gloria Bell, où il y a cette idée que, bah voilà, vivre, c'est pas non plus une fatalité et qu'on peut continuer de s'amuser. Alors, c'est pas parfait comme film, parce que voilà, on peut aussi voir que il y a une espèce de... comment dire, de mimétisme envers... Enfin, je veux dire, voilà, elles essaient aussi d'être un petit peu jeunes, et parfois ça fait un peu forcé, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez mignon dans ce film, que je trouve assez malheureusement inédit dans la façon de représenter les personnes plus âgées.
Ça me rappelle un peu Potiche, donc un film de François Ozon sorti en 2010, avec notamment Catherine Deneuve, dont on parlait tout à l'heure, au début de l'émission. Dans ce film, il y a Suzanne Pujol, la fille d'un riche homme d'affaires, et la femme de cet homme qui a repris l'entreprise familiale, qui a toujours été un peu une potiche dans sa vie, et qui est considérée par sa propre fille comme étant une potiche, parce qu'elle est un peu au service de son mari, elle a un peu effacé, sa vie consiste à aller faire son petit jogging, puis à écrire des petits poèmes sur la nature qui l'entoure. Et un jour, elle se retrouve, suite à un mouvement social, à prendre la tête de l'usine dans laquelle son mari travaille. Et elle se met à être très appréciée et tout, et elle rencontre notamment dans ses soutiens la secrétaire de son mari, qui est aussi la maîtresse de son mari, avec qui elle s'entend très bien. Et lors d'une scène, il y a la secrétaire du mari, justement, qui a un discours féministe dans lequel elle dit « Si tu peux être expérimentée sans prendre de l'âge, blablabla, tu seras secrétaire. » Et je trouve que c'est assez éloquent, c'est-à-dire qu'elle... elle veut dire qu'il faut être expérimenté, il ne faut pas être âgé, et dans tous les cas, qu'est-ce que ça sera ? Tu seras secrétaire. Tu ne peux pas avoir d'autre emploi que secrétaire, quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience.
Moi, je voulais revenir sur un truc que tout à l'heure tu disais, Laura, c'est que la sexualité des femmes, ou en tout cas les corps des femmes, est souvent peu montrée, comme tu disais, dans Gloria Bell, où on voit quand même sa poitrine. Et surtout qu'en fait, je trouve qu'il y a un vrai tabou autour de la nudité des femmes seniors, et ça en devient même un motif horrifique, enfin, je veux dire, en y repensant, les seuls corps féminins que j'ai vus, c'était vraiment dans des films d'horreur, genre c'est The Visit où on voit une vieille femme avec les cheveux très très longs, généralement c'est ça, c'est une femme avec des cheveux très très longs, très gris, très ébouriffés, avec voilà, des formes, avec des rides, etc. Et enfin, il y a ça, il y a même dans ça chapitre 2, il y a dans The Witch, enfin voilà, à chaque fois en fait, It Follows aussi, et dans Shining, et à chaque fois en fait, voilà, c'est des motifs horrifiques, c'est vraiment un corps en fait qu'on regarde comme un corps déformé, qui est hyper inquiétant, et il n'y a pas de réflexion sur ce corps en fait, il n'y a pas de réflexion généralement sur la vieillesse, c'est vraiment juste, c'est littéralement des monstres de cinéma, et je trouve ça assez triste en fait. On a aussi un exemple assez intéressant qui était sorti juste avant le confinement, c'était Relique. Qui était un film justement qui parlait de trois femmes, justement de trois générations de femmes, et dont en fait la plus vieille, donc la grand-mère, est atteinte d'Alzheimer. Donc c'est surtout, je trouve, la maladie d'Alzheimer qui devient le monstre plus que le corps de la femme et de la grand-mère. Mais il y a tout un truc autour du corps, des rides en fait, qui sont filmées en très très gros plan, où en fait ça devient une espèce de... presque quelque chose d'un petit peu poétique, je trouve. En fait, je trouve que c'est un film qui porte beaucoup d'empathie sur son personnage et qui ne le montre pas vraiment comme un monstre, comme les exemples dont je pouvais parler tout à l'heure, mais qui montre vraiment, voilà, cette femme qui a été rongée par la sénilité. Et ce corps, en fait, qui représente la vieillesse et qui est une espèce d'héritage un petit peu maudit qui va se transmettre, justement, de génération en génération. Et donc, voilà, c'est là, pour une fois, je trouve que c'est vraiment la seule réflexion... Enfin, il y a vraiment une réflexion, pardon, sur ce corps dans le cinéma d'horreur. Mais sinon, je trouve qu'à chaque fois, ce sont des motifs horrifiques qui sont vraiment là juste parce que l'idée d'un corps féminin, d'une senior nue, en fait, ça fait peur.
Bah, oui, surtout que il y a... Tout à l'heure, j'ai parlé d'un film avec Bette Davis qui s'appelle « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» Et en fait, ce film, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a lancé une espèce de genre, alors pas vraiment horrifique, mais qui plus tard, on peut voir après des films horrifiques qui y font référence. Ça s'appelle la egg exploitation. Donc egg, c'est un mot en anglais qui est un mot d'argot qui veut dire vieille femme. Et en fait, on parle de egg exploitation, des films qui prennent des actrices en fin de carrière, donc du coup des actrices de 50 ans et plus, et qui les vieillissent et les rend folles, enfin qui les font jouer des personnages un peu folles et un peu... qui les vieillissent aussi dans leur coiffure, leur visage et leur corps. Et du coup, c'est un genre qui s'est beaucoup vu dans les années 60-70. Après, on le voit plus tellement, mais on peut voir certains films où on voit des actrices qui commencent à vieillir, qui justement vont jouer des folles hystériques, vont jouer des vieilles femmes qui... dans les films d'horreur. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit que le corps qui vieillit du coup devient totalement un truc horrifique, un truc qui fait peur, un truc qui du coup va être montré comme un contre-exemple et qui va être mis en comparaison avec la jeunesse et avec la beauté. Et du coup, je trouve ça très intéressant que Relique, justement, ne part pas du tout là-dedans. Au début, on peut penser qu'il part là-dedans parce qu'avec cette figure de cette grand-mère qui perd totalement la tête, si on a l'impression qu'il va se passer quelque chose de mal, enfin, en tout cas qu'elle peut symboliser le mal, mais alors pas du tout. Et je trouve même que justement ce qui est bien dans Relique, c'est que c'est presque une victime de la maladie.
On est complètement en empathie, pardon.
Et voilà, et c'est exactement ça ce qui est important, c'est qu'on est totalement en apathie par rapport à d'autres films où justement ces vieilles femmes, du coup, on n'a pas envie qu'elles s'en sortent dans les films d'horreur ou dans les exploitation. Mais par contre, dans Relique, c'est totalement l'inverse et c'est ça que j'ai adoré. Alors le film en lui-même, je ne l'ai pas non plus adoré, mais c'est ça que j'ai aimé, c'est cette figure de la vieille qui est montrée comme folle. Qui du coup, on voit qu'en fait, c'est juste une victime et qui. Et c'est. Enfin, la fin, je l'ai trouvée vraiment magnifique dans cette espèce de plan où on voit. Parce que son corps se noircit au fur et à mesure. Et en fait, on voit que sur sa fille et sur sa petite fille, pareil, elle commence à avoir des points noirs sur leur corps. Ce qui veut dire que, ben, forcément, elles aussi, elles vont vieillir et que ça fait partie de la vie.
Ben, justement, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur Relique, dans Relique. J'ai beaucoup aimé le film, hein, moi, de toute façon. Il y a vraiment quelque chose qui m'a énormément plu, c'est la façon dont on est entraîné dans la psyché de cette grand-mère, justement, et la façon dont toute la deuxième partie du film représente de manière complètement cinématographique et complètement folle. J'ai beaucoup aimé la psyché de cette grand-mère avec la maison qui devient son esprit et qui devient la représentation de la maladie d'Alzheimer.
Moi, j'ai un exemple un peu plus positif, et là, évidemment, vous allez rigoler, mais je trouve que finalement Titanic parle aussi d'une expérience d'une femme âgée. On se retrouve quand même dans... alors on a beaucoup parlé dernièrement du female gaze de Titanic, parce qu'en fait on vit l'expérience de cette femme, enfin Rose du coup, et finalement le film parle de ses pensées à elle, de ses souvenirs à elle, de ses désirs à elle, et je trouve que c'est quand même assez rare. Alors déjà c'est rarement souligné quand on parle du film, mais je trouve que même si on la voit moins à l'écran que lorsqu'elle est jeune et jouée par Kate Winslet, finalement on parle quand même d'une expérience d'une personne très âgée, en l'occurrence parce qu'elle a plus de 100 ans, qui à travers ses souvenirs nous raconte une histoire.
Non, t'as tout à fait raison. Avec Titanic, en fait, c'est vrai qu'on voit cette histoire, on voit ce désir, mais aussi à travers la jeunesse, même si, voilà, on voit quand même quand Rose était jeune et pimpante et très très belle. C'est vrai que cet exemple-là est assez intéressant. Après, moi, j'en ai un autre assez récent qui m'agace autant que je le trouve intéressant. C'est dans la mini-série de Ryan Murphy, donc Hollywood. Au tout début, il y a une scène, en fait, avec Holland Taylor, qui est, je crois, une septuagénaire, donc qui incarne une vraiment très vieille femme, qui fait appel à un escort boy, pour coucher avec lui. Et alors, la scène, je la trouve assez insupportable, parce que je trouve qu'il y a une espèce de truc assez grotesque derrière, voilà, parce qu'on montre une sexualité d'une vieille femme, et un truc un peu subversif, mais en même temps, il y a quand même quelque chose d'assez positif là-dedans, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit jamais. Alors, voilà, c'est un exemple qui m'agace, parce que je trouve qu'il y a vraiment, et après bon, c'est toute la série qui est un peu comme ça aussi, une espèce de regarder, on montre une vieille femme en train de coucher avec un escorte, regardez, c'est un petit peu subversif, mais en même temps c'est quand même un truc qu'on voit pas souvent et c'est quand même assez positif dans la série. Tout ça pour dire aussi qu'on a moins de mal à aborder la sexualité des hommes seniors au cinéma. Alors déjà, comme on disait tout à l'heure, ils sont souvent en couple avec des jeunes femmes beaucoup plus jeunes qu'elles, et puis surtout en fait on a moins de mal à montrer aussi les troubles qu'il peut y avoir. Enfin, je veux dire, alors c'est peut-être très bête ce que je veux dire, hein, mais j'ai découvert l'existence du Viagra à travers les films. Et alors, ok, ça peut être montré d'une manière un petit peu ridicule, ça peut être tourné en dérision, mais en attendant, on a moins honte de montrer ce genre de problème à l'écran. Puis ça permet aussi d'avoir une certaine sexualité à ces vieilles personnes, alors que, bah, en fait, on essaie d'avoir un regard complètement asexué sur les très vieilles femmes.
Moi, j'ai un exemple récent aussi quand tu parlais des sexualités des hommes plus âgés à l'écran. J'avais vu le film La Mule de Clint Eastwood, où dans ce film, à un moment donné, il se retrouve à une espèce de pool party où les femmes ont entre 20 et 25 ans, en maillot de bain, tout ce qu'on peut voir un peu dans les films. Je pense que tout le monde a un petit peu en tête ce genre de scène. Et il se retrouve à un moment donné dans une chambre avec deux filles. Et en fait, on le voit se mettre sur le lit et une d'elles qui grimpe sur lui, du coup. Et on comprend assez rapidement qu'ils vont coucher ensemble. Et d'ailleurs, je trouve que c'est fait avec beaucoup de recul, avec un espèce de truc marrant mais pas tant que ça, enfin ah, il a raison en gros de se faire plaisir, et je trouve que c'est quand même une scène qu'on verrait jamais à l'écran, et jamais on verrait, encore une fois, un Meryl Streep comme ça, sur un lit avec deux hommes super jeunes, en train de se donner un plaisir aussi. Il y a plus de tabous aussi avec l'écart d'âge entre les femmes et les hommes quand ce sont les femmes plus âgées que les hommes. Contrairement à l'écart d'âge, et là pareil, je mettrai des articles avec des statistiques, mais on sait très bien que les love interests, comme on appelle ça au cinéma, des acteurs plus vieux, je crois qu'il y avait un graphique qui était sorti avec les love interests de Tom Cruise et ceux de Jennifer Lawrence, ça parle tout seul. Il y a juste à regarder le graphique pour se rendre compte que Jennifer Lawrence est parfois 20 ans, elle a un écart de 20 ans entre son love interest et elle. Elle a quand même un film qui s'appelle Happiness Therapy où elle est dans sa vingtaine et on a Bradley Cooper qui est quasiment dans sa quarantaine. Un film aussi avec elle où c'est Chris Pratt qui a très certainement le double de son âge. Tom Cruise, on retrouve aussi ces écarts d'âge assez souvent, alors plutôt dans des films où il n'est pas avec des actrices connues, parce que là du coup tout le monde va me dire ah bah non, mais dans As Wide Shut et tout, oui, mais il est avec Nicole Kidman. Et je pense aussi qu'il y a un espèce de truc de carrière aussi, elles n'ont plus rien à prouver à un certain moment, et du coup il n'y a plus cet écart, enfin j'ai l'impression, hein, je dis peut-être des bêtises, mais en rassemblant toutes les statistiques que j'ai pu lire, et ça rejoint tout à l'heure ce que l'une d'entre vous disait par rapport au fait que, bah, en fait là on parle d'actrices qui sont déjà très connues, c'est j'ai l'impression que plus elles sont connues, moins il y a cette espèce d'écart d'âge, comme si de toute façon elles pouvaient dire quelque chose si ça ne les convenait pas. Et on voit au début de la carrière de Jennifer Lawrence qu'il y a toujours cet écart d'âge assez important. Je suis pas sûre qu'il se restreigne, parce que là j'ai pas d'exemple de ses derniers films. Les acteurs, enfin, il y a jamais ce problème, même de base, dans leur début.
Après moi ça me fait penser à l'épisode de 10% avec, oui, Sigourney Weaver, où justement ça parle vraiment de ça, où on a Sigourney Weaver, donc il y a, je crois qu'elle a quasiment 70 ans, qui est appelée sur un tournage d'un film de Guillaume Gallienne, dans lequel en fait on lui a dit qu'elle allait être l'amante de Gaspard Ulliel, donc il y a 35 ans à ce moment-là, et en fait quand elle arrive, c'est la douche froide, parce que en fait son partenaire à l'écran c'est Bernard Verlet, qui était le prêtre pédophile de Grâce à Dieu, et qui est beaucoup beaucoup plus âgé que lui. Puis en plus il y a tout un truc, en fait tout l'épisode va tourner autour du fait que Sigourney Weaver, elle va devoir prouver que passer 70 ans c'est pas une mamie croulante, que voilà, elle peut encore faire du sport, qu'elle est encore super. Elle est en
Il y a cette
forme.
Sublime scène musicale à la fin où elle danse, et ouais, tout le monde a les yeux, qu'est-ce qu'elle fait. Mais oui, il y a ce jeu aussi, que quand elle arrive dans sa chambre d'hôtel, elle demande un tapis de course, et que tout le monde est en mode elle va courir, enfin.
Ouais, et puis il y a le mec de l'hôtel qui lui dit « Mais madame, vous êtes... » Enfin, nos clients seniors, d'habitude, demandent du calme. Elle fait « Non, moi, je veux la vue sur la place Trocadéro, donnez-moi mon tapis, et puis c'est terminé. » Et puis même après, justement, la scène de la danse, donc elle est en train... super cette scène, elle est en train de danser, il y a tout le monde, enfin, une espèce de musical. Et puis il y a Bernard Verlet qui, en fait, a dit que lui ne voulait faire que des scènes où il était assis. Alors elle est en train de danser, puis il voit ça, en fait il se barre parce qu'il dit non mais en fait je peux pas, j'arriverai pas à tenir, alors que voilà, tout ça pour montrer qu'en fait il y a toujours ce décalage avec le fait que bon, lui il sera pimpant, il sera en pleine forme, alors qu'en fait il est littéralement presque amorphe, enfin en tout cas c'est le personnage qu'il joue dans le film, c'est vraiment une espèce d'acteur presque amorphe, et elle à côté elle est pleine de vie, et tout le monde lui dit non mais madame vous êtes trop vieille, elle fait non pas du tout, et elle est obligée de leur prouver que non, en fait, elle est en pleine forme et qu'elle n'est pas du tout l'image de senior en maison de retraite comme on aimerait bien lui accoler, en fait.
C'est surtout qu'en fait, on s'aperçoit vite que quand il y a un écart d'âge, quand c'est l'homme le plus vieux, il n'y a aucun souci. Le film n'en parle presque pas. Mais par contre, quand c'est l'inverse, quand c'est la femme qui sort avec un acteur plus jeune, bizarrement, ça devient vraiment le sujet du film. Et du coup là, ce qui est intéressant dans cet épisode de 10%, c'était que du coup l'histoire, en tout cas comment elle nous raconte Sigourney Weaver, c'est que c'est un personnage qui quitte tout pour l'homme qu'elle aime, et du coup elle trouvait ça très intéressant que du coup, ça soit pas le, enfin, que l'âge de Gaspard Ulliel ne rentre pas en compte, que c'est juste une histoire d'amour. Et c'est pour ça qu'elle est déjà très déçue de voir qu'on essaye de la mettre avec un homme de son âge qu'elle ne trouve pas du tout attirant en plus, et qui en plus, comme on le voit, vraiment, enfin, est devenu un acteur assis, où du coup il a plus du tout envie de tourner comme avant, d'avoir une certaine activité physique, alors que elle, c'est tout le contraire. Et en plus de ça, elle est telle totalement déçue, parce qu'elle se rend compte que le film qu'elle s'était imaginé dans la tête, qu'elle trouvait très bien, qu'elle trouvait novateur, n'est pas du tout le film que lui présente le réalisateur. Et c'est pour ça qu'après l'épisode va tourner autour de ça, où elle doit prouver que elle peut jouer une actrice, un rôle convaincant avec un homme plus jeune qu'elle.
Ben c'est ça, parce qu'en fait, les vieilles actrices, ou en tout cas les actrices qui ont autour de 70 ans, on leur donne toujours des rôles où en fait, il est presque question d'euthanasie, de fin de vie, de sénilité, enfin limite le amour de Haneke, où ça y est, c'est la vieillesse comme presque fin du monde, enfin voilà, alors que bah dans la réalité c'est pas forcément ça, et il y a vraiment c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais il y a vraiment un moment où il y a un moment charnière où en gros bah soit ce sont des êtres asexués de petite grand-mère, soit c'est littéralement des femmes en fin de vie alors qu'elles ont 50 ans, enfin je veux dire c'est assez affolant en fait. Et même enfin après on parlait aussi des écartages, etc. Enfin voilà, effectivement, les femmes, enfin comme tu disais Laura, l'inverse est souvent remis en question, parce qu'en fait il y a une telle normalité en fait de voir des acteurs plus vieux parce qu'ils sont plus séducteurs, et parce que ils viennent aussi guider des actrices plus jeunes, parce qu'il y a cette idée d'un petit peu qu'elles sont inexpérimentées, que voilà c'est eux qui vont les penser à des films. Enfin je veux dire, il y en a tellement. Pensez, je sais pas, à Lost in Translation ou Scarlett Johansson, je crois qu'elle a 20 ans. Il y a Bill Murray, je crois qu'il en a 50 à ce moment-là, il me semble. Enfin, c'est quand même, voilà, il y a quand même une relation. Alors que après, effectivement, c'est une histoire d'amour, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que la différence d'âge est quand même assez grande. Et que, en plus, comme on le disait tout à l'heure, dans la réalité, les écarts d'âge, c'est 2 ans. Donc, en plus, ça pose la question de à qui sont destinés réellement ces films. C'est vraiment qu'on pose sur ces histoires d'amour, en fait, un regard qui est vraiment très masculin, parce que, bah voilà, c'est le fantasme, en fait, de la femme plus jeune, inexpérimentée, qu'on va déflorer. Enfin, voilà. Tandis que l'inverse, en fait, ça fait fuir les hommes parce que bah ils sont pas vraiment attirés par des femmes plus vieilles. Et il y avait une interview que j'ai trouvée mais hallucinante. C'était Maggie Gyllenhaal en fait qui racontait dans une interview, je crois que c'était Vulture, que en fait elle avait été refusée dans un film dans lequel elle devait jouer une relation avec un homme de 55 ans parce qu'en fait elle était jugée trop vieille alors qu'elle avait 37 ans. Enfin je veux dire c'est hallucinant, et en fait c'est la réalité. Enfin je veux dire, l'épisode de 10%, je le trouve assez c'est assez marrant, parce que le film, enfin c'est quand même de la fiction, c'est un épisode de fiction, mais en même temps je trouve qu'il y a une vraie réalité dedans, et ça se reflète vraiment dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et c'est assez hallucinant en fait.
Je trouve ça très intéressant ce que tu relevais pour Lost in Translation, qui est un film aussi que j'aime énormément. C'est vraiment ce côté, encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait qu'un homme âgé a cette image d'homme sage, expérimenté sur la vie en général, peu importe sur à quel niveau, en fait, sur n'importe quel sujet. D'ailleurs, c'est un peu le rôle de Bill Murray dans ce film, où c'est un peu l'homme qui boit son whisky dans le calme, qui a beaucoup de choses à dire sur la vie, qui a des paroles très sages. Et à côté, on a Scarlett Johansson, qui est une personne... on le voit, qui est une femme qui est pleine de vie, mais qui est aussi un peu blasée, qui comprend pas tout. Il y a vraiment cette coupe paternaliste qui est assez, je trouve, assez représentative aussi, sans forcément qu'il y ait de ce genre d'écart d'âge. Alors là, je trouve que pour le coup, ça fait grave partie du scénario, en fait, d'avoir ces deux personnalités. Et je trouve qu'au final, même quand ça ne fait pas partie de l'histoire, il y a toujours ce côté l'homme qui va apprendre à la femme. Et j'ai lu dans mes recherches, encore une fois, tous les articles seront listés, qu'il y a aussi ce truc de quand t'es jeune, t'es plus facilement influençable, malléable et donc plus facilement aussi impressionnable, et que c'est aussi les rôles qu'on donne aux femmes. D'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, on parle d'héroïnes badass, parce que la plupart du temps, ben, on les voit pas de cette manière, où en fait, elles sont un petit peu lascives dans leur relation, et c'est souvent l'homme qui va venir un peu les sortir de cette lascivité. Et je pense que ça se lie aussi à l'inverse, à savoir ben, les femmes âgées qui ont elles aussi vécu des choses, peuvent forcément remettre en question ce qu'un homme va leur apprendre.
C'est marrant ce que vous dites sur Lost in Translation, parce que j'aime beaucoup le film, c'est vraiment un film que j'adore même, mais j'ai toujours trouvé que l'histoire d'amour était en trop, ça m'a toujours gênée. Moi j'aurais beaucoup aimé qu'il reste comme ça dans une sorte de relation père-fille, et c'est quelque chose qui je pense m'aurait beaucoup plus touchée que cette histoire d'amour à laquelle je n'ai jamais cru, alors que j'adore le film.
Je suis assez d'accord, hein, enfin, moi j'adore le film aussi, mais c'est vraiment une partie qui m'a... En plus, je comprends pas trop pourquoi ça tombe dans cette histoire d'amour où ils vont s'embrasser à la fin, etc. Parce que je voyais aussi ça comme le père de Scarlett Johansson qui justement a cette vision un peu sage, un peu philosophique, où elle, en fait, elle apprend seulement... voilà, elle est toute seule dans sa chambre et elle essaye un peu d'apprendre ce que la vie lui donne. De toute façon, je rejoins totalement ton avis, hein. J'adore le film, mais je trouve que soit on n'y croit pas, soit ça marche pas, et puis ouais, c'est quand même un petit peu gênant en fait. Je pense à la scène du karaoké où ils se lancent des petits regards et tout. Au début, tu peux te dire, ah bah c'est des regards un peu de pas forcément amoureux, un petit
complice.
Peu de complice, oui, exactement. Et puis en fait, quand ça se transforme en histoire d'amour, t'es un petit peu j'y crois pas trop, et ça tient pas forcément de la différence d'âge, mais c'est aussi parce que c'est
ouais,
très gênant
ouais,
de
ouais,
voir ça.
Je trouve que ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est vraiment un défaut du film. Il y a la différence d'âge, il y a le fait que leur relation aurait pu être différente, aussi liée justement à cette différence d'âge. Et finalement, je n'ai jamais cru à cette histoire d'amour, et c'est toujours quelque chose que je n'ai pas apprécié dans le film.
Ah mais même, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pareil, c'est un film que vraiment j'adore. Mais et je trouve que c'est un truc que je voyais, en tout cas les premières fois où je le voyais, jusqu'à cette scène finale. Pour moi, j'avais plus l'impression que c'était une histoire d'amitié, même
ouais,
plus que de paternalisme. Et je trouve que ça aurait fait une superbe histoire d'amitié. D'ailleurs, c'est un truc, enfin, les amitiés hommes-femmes, même au cinéma, c'est quand même assez rare. Et je trouve que ça aurait été super. Et ben non, ça tombe dans un truc, histoire d'amour. C'est... Ouais, je suis d'accord, je trouve que c'est un défaut du film. En tout cas, j'y crois pas non plus, parce que il y a ouais, ce décalage un petit peu embarrassant, où il y a pas forcément de signes, ou en tout cas des signes que je trouve que j'interprète plus comme des choses amicales que comme une grande histoire d'amour. Enfin, je sais pas. Et de toute façon, enfin, des films comme ça, avec des romances, avec des personnes plus âgées, des femmes plus jeunes, enfin, je veux dire, il y en a tellement, enfin, je veux dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une normalité, en fait, et c'est assez dommage, parce que je trouve qu'on y croit, enfin, je sais pas, personnellement, moi, j'y crois moins quand je vois ce genre de relation à l'écran.
J'ai lu au cours de mes recherches qu'il y a un an et demi, deux ans, justement, par une certaine prise de conscience aussi, que les actrices ont commencé aussi un petit peu, il faut le dire, à parler. Alors, évidemment, on parle beaucoup de MeToo, etc., mais ça a quand même déclenché d'autres conversations en dehors de juste MeToo. Et j'ai lu que certains studios à Hollywood avaient pris la décision de ne plus mettre l'âge, alors quand c'était pas nécessaire, on est bien d'accord, ça, si jamais ça fait partie de l'histoire, du scénario, que c'est un besoin vital pour l'histoire, évidemment qu'il renseigne l'âge, mais quand ce n'était pas nécessaire, ils enlevaient l'âge pour que les actrices puissent postuler, parce que, et ça on le voit très bien quand on se balade un petit peu sur le site justement de l'Association des actrices et des acteurs de France, que très souvent les actrices ne postulent pas, parce que dans la description, alors je sais pas si vous voyez un petit peu pour les personnes qui nous écoutent comment ça marche quand on postule à un rôle, mais très souvent il y a une fiche avec des descriptions physiques si besoin, des descriptions un peu particulières pour voir si vous pouvez déjà ou non correspondre à un rôle, et en l'occurrence sur beaucoup visiblement sur beaucoup d'annonces, il y a écrit l'âge, donc recherche femme entre 18 et 25 ans, et dans la plupart des cas c'était injustifié, il n'y avait pas besoin en fait de mettre l'âge. Alors ça, c'est ce qu'on peut trouver en France sur ce fameux site de l'association. Et en fait, à Hollywood, où ils connaissent visiblement le même problème, eh bien, certains studios ont décidé de ne plus le faire si jamais il n'y en avait pas besoin, en fait. Si jamais le rôle ne demandait pas à ce qu'on ait entre 18 et 25 ans, de ne pas le mentionner. Comme ça, les actrices, si elles ne se sentaient pas légitimes pour postuler à ce rôle, elles pouvaient quand même le faire. Parce qu'il faut le dire, parfois, si on lit quelque chose qui visiblement correspond à une actrice plus âgée, et ce qui est visiblement, puisque depuis tout à l'heure on en parle, la plupart des cas, les actrices n'osent pas forcément aller au casting. Et d'autant plus, alors ça c'était à une assise du collectif 50-50, où évidemment cette question n'avait pas encore été abordée, et très justement il y a une dame dans la salle qui dit « Et pour les actrices de 50 ans, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors depuis, il y a eu plein de choses qui ont été faites, on vous mettra aussi en lien toutes les statistiques qui ont été notées, et en fait, effectivement, elle expliquait, cette dame, que... quand on va à des castings et qu'on nous refuse 4 fois et que la raison c'est que notre âge colle pas alors que pour le coup il n'y avait pas besoin, on est un petit peu démotivé et on va pas forcément du coup y aller.
Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Amandine, en 2016, donc du coup c'était avant MeToo, le gouverneur de Californie qui voulait faire passer une loi pour contrer un peu ça, en fait enlever l'âge des acteurs et surtout des actrices des sites de, par exemple comme IMDb, qui est un grand site de collecte de données sur les carrières sur les carrières artistiques, et du coup il voulait justement enlever l'âge des acteurs et des actrices, aussi des comme tu disais des dossiers dans les studios. Mais du coup il me semble que cette loi est passée, alors il faudrait vérifier parce que là je suis vraiment pas sûre, mais du coup ça fonctionne et en même temps ça fonctionne pas, parce que ça marche que pour des sites spécialisés cinéma, par exemple comme tout ce qui est Google, Wikipédia, etc. On peut quand même retrouver l'âge des acteurs et des actrices. Donc d'un côté, ça c'est fait pour justement contrer ces problèmes que tu viens de citer. Mais d'un autre côté, après, sur Internet, on peut tout trouver. Donc du coup, ça ne fonctionne pas si bien que ça.
En soi, je trouve que c'est un truc à nuancer, parce que ça diabolise un peu l'âge, finalement, de mettre ce genre de choses. Est-ce que c'est réellement positif? Est-ce que finalement, c'est pas aussi un cache-misère, ce genre de loi? Parce que je trouve que si on écrivait des personnages pour les femmes, et en plus pour les femmes de plus de 50 ans, un peu plus diversifiées, la question ne se poserait pas, donc dans un monde idéal, bien évidemment. Et puis en plus, est-ce que du coup, le fait qu'il n'y ait pas l'âge va faire que cette actrice, elle va être prise? Je suis pas certaine, j'ai quand même l'impression que c'est un truc pour cacher un peu et un truc de bonne conscience, quoi. Je pense pas que ça va régler, très honnêtement, le problème que tu disais, Laura, c'est que ça date de 2016. Bon, on voit pas plus d'actrices depuis.
Ça traite superficiellement du problème qui est de l'âge des surtout des actrices, mais ça dénonce pas tout ce qu'on a cité précédemment, tous les problèmes de représentation du coup de ces actrices là et qui peut-être Hollywood, il serait temps et même Hollywood, je parle d'Hollywood parce que c'est vrai qu'on parle souvent des actrices américaines, mais aussi en France il serait peut-être grand temps de s'intéresser à ces questions, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et je pense que oui, comme tu dis, c'est un cache-misère.
Après, je pense que effectivement, Hollywood, c'est super intéressant parce qu'il y a toute cette starification, il y a cette fabrique des jurys et tout. Mais dans le cinéma un peu plus autorisant, même dans le cinéma français ou quoi, il faut aussi considérer qu'on a justement tous ces films sur la crise de la cinquantaine, la crise de la quarantaine, la crise du milieu de vie, qui sont généralement interprétés par des hommes, ou dans lesquels les femmes sont finalement juste les femmes. Ce sont les femmes, ce sont au sens des épouses, ce sont juste les épouses. Et on a très peu de films qui traitent de la crise du milieu de vie des femmes. Il y a également le cinéma d'horreur qui va utiliser les corps des femmes âgées comme étant des corps qui font peur, des corps horrifiques. Et finalement, il y a Hollywood, oui, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que les autres ne doivent pas non plus se cacher derrière une espèce de « Non, mais nous, on n'est pas comme Hollywood, nous, on est des auteurs, nous, on est un tel genre ou quoi, nous, on ne fait pas partie de Hollywood au sens qu'on entend du terme, au sens fabrique de stars. » Et pourtant, ben, y a ça de partout, c'est vraiment gangréné de partout.
Après, c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où il y a Hollywood, mais pas que. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, c'est que c'était quelque chose qui était très culturel, et je pense que c'est aussi très ancré à Hollywood, parce que bah, c'est la vitrine sur le monde entier. Mais en y repensant, j'ai l'impression que la vieillesse, c'est pas forcément vu, parce que là, on parle beaucoup d'un point de vue occidental, mais par exemple, la figure de la matriarche, ou en tout cas de la grand-mère, n'a pas du tout la même valeur dans le cinéma japonais. Alors c'est peut-être un raccourci que je vais avoir, mais dans le cinéma japonais, je pense par exemple à Une affaire de famille, ou même très récemment dans un jardin qu'on dirait éternel, avec Kirin Kiki, qui incarne vraiment un pilier en fait, et un pilier de sagesse. Et on en parlait déjà dans l'épisode sur les Ghibli, pardon, où on disait qu'il y a vraiment cette idée de transmission, et dans un jardin qu'on dirait éternel, pardon, je trouve qu'il y a vraiment une idée d'une transmission et d'un savoir, donc... C'est un très 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 beau film qui était sorti, je crois que c'était au mois de septembre, ou août, septembre, je sais plus, qui parle en fait de la cérémonie du thé au Japon, et qui en fait fait toute une réflexion assez existentielle, un petit peu qu'est-ce que c'est de vivre sa vie et de l'importance de la vivre en fait. Et puis c'est un savoir en fait qui se transmet à travers justement le personnage de Kirin Kiki qui transmet un savoir qui est exclusivement féminin, qu'est-ce que c'est tout ce qui tourne autour de la cérémonie du thé, et aussi de ce savoir existentiel. Et donc je trouve que depuis tout à l'heure, voilà, on a cette idée que la vieille femme, eh ben, elle est soit sexualisée, soit elle n'est pas du tout, soit c'est une grand-mère, soit c'est une personne limite en fin de vie. Et je trouve qu'elle n'a pas du tout la même place dans d'autres cultures, en tout cas dans le cinéma japonais. Je trouve qu'elle a vraiment cette valeur de sagesse et de pilier vraiment de la famille. Je pensais même à un autre film qui s'appelle Summer Wars de Mamoru Hosoda. Ou même c'est un truc qu'on retrouve dans Une affaire de famille de Koreeda. C'est la grand-mère qui régit en fait toute la famille qu'il y a autour. Et qui a vraiment une importance capitale, tandis que la vieille femme à Hollywood ou dans le cinéma français, on la voit pas vraiment.
C'est quelque chose de très culturel aussi, puisqu'au Japon, on a vraiment au Japon et dans d'autres pays, hein, mais je vais pas partir sur toutes les différentes cultures que je ne maîtrise absolument pas, mais je sais qu'au Japon, on a vraiment ce respect des aînés. Donc la vieille femme sera vraiment la femme qu'on respectera, la femme dont on apprendra, la femme qui sera vecteur de sagesse. Il n'y aura pas du tout ce même traitement, donc au cinéma il n'y a pas du tout ce même traitement, c'est tout à fait différent.
Non, tout à fait, et puis c'est vrai qu'en plus, on n'en a pas forcément parlé, mais après, dans le cinéma occidental, généralement la grand-mère, c'est... En fait, elle est regardée juste à travers le prisme de « Oh, bah, c'est une femme qui est ultra, ultra bienveillante envers les petits-enfants, les enfants, etc. » Mais il n'y a pas cette idée de transmission de savoir. C'est vraiment juste la grand-mère, hyper mignonne, hyper sympa, et c'est tout, en fait. Elle est juste là, en fait, pour être sympa.
Le film qui est absolument magnifique en termes de transmission de savoir, qui est encore un film japonais, c'est Anne, dont le titre français est « Les délices de Tokyo » de Naomi Kawase. C'est un film qui est absolument merveilleux, puisque c'est une vieille femme qui a été rongée par la maladie, dont le corps est abîmé par la maladie, qui va apprendre à une écolière, enfin une collégienne il me semble, c'est une adolescente, comment est-ce qu'on fabrique la pâte d'haricots rouges qui est utilisée pour fabriquer des dorayaki, c'est-à-dire des espèces de petites pâtisseries japonaises, traditionnelles japonaises. Et ce film est absolument merveilleux, et il y a vraiment cette image de vieille femme... qui va apprendre quelque chose, qui va posséder un énorme savoir, qui va être extrêmement riche. Ce personnage absolument merveilleux qui fait pleurer toutes les larmes de notre corps d'ailleurs. Moi je me souviens très bien, j'avais vu le film à Cannes, et les gens pleuraient tellement que des mouchoirs se promenaient dans les rangs, les gens faisaient passer leur paquet de mouchoirs pour que tout le monde puisse avoir des mouchoirs tellement tout le monde était en pleurs. Et ce film est une petite merveille, parce qu'il y a vraiment ce corps rongé par la maladie qui est... n'intéresse pas en tant que corps, mais qui intéresse en tant qu'expérience vécue par ce corps, et je trouve ça absolument fabuleux.
C'est ça, c'est le manque d'expérience en fait du corps. Enfin, j'ai l'impression que dans le cinéma occidental, ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment juste un corps qui va se dégrader, on va pas forcément interroger d'ailleurs la sagesse, ou en tout cas l'expérience, comme on peut le faire à travers des figures masculines. Justement par exemple Bill Murray, alors il était peut-être pas septagénaire mais au moment de Lost in Translation, mais voilà, il y a l'expérience en fait de la vie et cette réflexion sur l'existence qu'on va pas retrouver dans les figures de vieilles femmes au cinéma, en tout cas dans le cinéma occidental, même hollywoodien.
Non, et puis même dans les films là qu'on vient de citer, surtout dans Un jardin qu'on dirait éternel, la vieillesse et le temps qui passe n'est pas diabolisé. C'est quelque chose qui du coup va de soi, et en fait il y a une espèce d'acceptation du fait que l'on vieillit plus que le fait qu'il faudrait retarder ce vieillissement, qui est super intéressant dans le film.
La représentation, en fait, de la vieillesse au cinéma, généralement, ça va de pair aussi avec la représentation de la mort qu'on peut en avoir. Et j'ai l'impression que... Alors, c'est vraiment peut-être un raccourci, et j'ai peut-être pas assez de savoir là-dessus, mais j'ai l'impression que la mort, et en tout cas la vieillesse, ne sont pas du tout regardées de la même manière, par exemple, dans une société comme le Japon, que nous, dans notre société occidentale, où c'est vraiment quelque chose de tabou. Et j'ai l'impression qu'en fait, bah, à travers ces corps de femmes vieillissantes, cette perte aussi de la fertilité, etc., il y a vraiment l'idée d'une fin de vie et de quelque chose qu'on ne veut pas avoir parce que ben, ça va vers la mort, même si on parle quand même de quinquagénaires pour la plupart, qui ne sont pas du tout en fin de vie, comme le disait et comme le montrait très bien Sigourney Weaver. Et puis surtout, enfin, je veux dire, ça pose aussi la question, parce qu'il faut quand même savoir que les seniors sont une des parts les plus importantes du public au cinéma. Je crois qu'en 2018, ça représentait 35% de l'audience dans les salles de cinéma, ce qui est énorme, et pourtant on les voit pas. Et enfin, je veux dire, ça pose vraiment la question de à qui et pour qui est fait le cinéma, alors que, enfin voilà, les seniors sont bien là, et la preuve, c'est qu'ils sont généralement plus souvent présents dans les salles de cinéma que des personnes plus jeunes.
Mais du coup, je vais en profiter pour faire une petite recommandation, puisque c'est un film qui met en scène un couple de seniors, et qui se concentre justement sur le point de vue de la femme, puisque c'est un couple hétérosexuel. C'est un film qui s'appelle 45 ans, c'est un film réalisé par Andrew Haig, qui est sorti en 2015 avec notamment Charlotte Rampling, dans lequel un couple d'un certain âge connaît un bouleversement lorsque l'homme reçoit une lettre lui apprenant que le corps de son amour de jeunesse disparu lors d'une course en montagne a été retrouvé dans un glacier. Et là, Kate, sa femme, va se poser énormément de questions sur leur relation, va s'apercevoir que cette femme lui ressemblait visiblement puisqu'elles avaient les cheveux de la même couleur, et va se demander si finalement son mari n'a pas passé sa vie attendre une femme qu'elle n'était pas, puisque son mari cherchait en elle son amour de jeunesse disparu. Et il y a tout ce questionnement vécu par une femme, en fait, d'un certain âge, une senior, et cette senior a le droit à une vraie réflexion sur sa vie sentimentale que j'ai trouvé super intéressant, et en plus le film est absolument magnifique, donc je le conseille. Et s'il s'appelle 45 ans, c'est justement parce que c'est les 45 ans de mariage de ce couple.
Et ça me fait penser, alors c'est un peu dans la continuité de ce que tu dis, j'ai pas vu du tout ce film, mais aussi dans une recommandation que j'ai envie de faire, c'est un film qui s'appelle The Old Man and the Gun, c'est le dernier film de David Lowery qui était sorti sur Amazon Prime l'année dernière, et qui en fait parle, alors c'est avec Robert Redford, d'ailleurs c'était son dernier rôle il me semble, et Sissy Spacek, qui sont justement des septuagénaires, donc qui s'incarnent vraiment un couple de leur âge, et il y a toute une réflexion en fait sur la carrière qu'ils ont pu avoir, et justement la manière dont ces vieux et vieilles actrices, acteurs et actrices, vont quitter peu à peu le cinéma et l'impact qu'ils vont avoir justement, l'impact de leur carrière sur l'histoire du cinéma en général. C'est un film qui est magnifique, qui est hyper doux et qui, voilà, a toute cette réflexion très, très tendre sur la vieillesse comme quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut regarder avec une espèce de tendresse comme aussi... la fin d'une vie, mais aussi le début d'une nouvelle histoire, d'une façon de vivre aussi. Et voilà, en tout cas, c'est un très beau film justement sur la relation avec Robert Redford et Sissy Spacek. Alors c'est plus centré sur Robert Redford, mais il y a vraiment cette réflexion sur qu'est-ce qu'être un acteur ou une actrice en fin de carrière et comment quitter peu à peu le cinéma justement en étant une vieille personne, et je trouve que c'est un film vraiment très très beau.
On a fait un petit peu le tour du sujet, à savoir le vieillissement au cinéma. Alors on vous aura listé dans la description de l'épisode toutes nos sources et des sources en plus pour aller encore plus loin dans ce sujet, qui est un sujet, donc comme on le disait au début, qui est un sujet de société qui se croise avec le cinéma et qui nous paraît assez essentiel de mettre en valeur. Vous allez l'entendre dans l'épisode, on a également deux personnes qui se sont ajoutées à notre conversation. La première, c'est Taina Allen, donc j'ai cité un peu plus tôt, qui est une critique spécialisée dans la pop culture et notamment dans la déconstruction de la pop culture. Je vous mettrai également l'article dont je vous ai parlé sur Eiffel qu'elle a écrit. Et également Jeanne Le Bozec, qui actuellement écrit un mémoire sur ce sujet, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, Laura, d'avoir été avec nous.
Ben merci à toi.
Amandine.
Et ben merci, avec plaisir, comme d'habitude.
Et Manon.
Merci de m'avoir permis de parler de 45 ans.
Regardez 45 ans, Manon y tient. Donc voilà, on mettra tout pour que vous puissiez le retrouver facilement. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si l'épisode vous a plu, à le partager, à le commenter et à lui mettre des étoiles sur Apple Podcasts. Ça demande pas beaucoup de temps et ça nous aide beaucoup. Le jour où l'épisode sera publié, quelques jours plus tard, on vous annoncera un projet sur lequel on travaille depuis quelques mois maintenant. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur le compte Instagram et sur le compte Twitter principalement. On se retrouve pour le prochain épisode. Bye.